Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC.
I'm Clementine. Can I borrow a piece of your chicken?
And then you just cook it. Without waiting for an answer.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous?
Oh, ça va, ça et va toi? Et toi?
Ça va très bien. Je vous réponds parce que parfois vous me dites ça va très bien. Aujourd'hui, nous recevons Max Chabat. Comment ça va?
Ça va très bien, merci pour l'invitation.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Oui, je m'appelle Max Chabat, j'ai 29 ans et je suis auteur. Notamment sur Burger Quiz, ce qui permettra, je pense, aux gens d'identifier. C'est un peu le seul truc, je pense, qui est sorti de moi, qui est, que les gens peuvent identifier.
Alors, figure-toi qu'on a un lien, toi et moi, on se parle depuis quelques temps, peut-être 2-3 ans.
Oui.
Et en fait, on a un lien direct également avec Guillaume, parce que, peut-être que tu l'ignores, Guillaume, mais j'ai une info tabzienne pour toi.
Eh ben, voyez-vous ça, j'ai hâte.
Max a travaillé au Vidéoclub dans lequel on tourne Vidéostore.
Ok.
Et voilà. C'est en tant que stagiaire ou
Alors, les deux, j'avais fait mon stage de quoi? C'est troisième? Je sais plus quand on fait un stage.
Okay. Troisième, trop bien. Vidéoclub de la Butte.
Fait, ouais, exactement. Tout à fait. J'habitais juste à côté à l'époque et j'avais fait mon stage là-bas. Et dès que j'avais commencé à bosser, donc à 18 ans, je crois que j'ai fait 4 ans là-bas. Je bossais le dimanche.
Et alors, c'était une bonne expérience là-bas?
Ah, c'était incroyable. En plus, en parallèle, j'étais en école de cinéma, donc c'était, j'avais tous les films gratuits. C'est incroyable, quoi.
Et alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film de Michel Gondry. Et Michel Gondry
tout à fait.
A également un lien direct avec ce vidéoclub parce que la légende raconte que le film Beacon Rewind a été inspiré par ce vidéoclub dans la mesure où il vit dans la même rue que ce vidéoclub.
Il y passe souvent.
Il y passe souvent, le propriétaire est un pote.
Exactement.
Et apparemment, le propriétaire aime nous dire que c'est un peu suite aux discussions. Et c'est marrant parce que Max me disait en off, la légende veut que... On sait pas trop. Non, mais la légende
Me mets pas dans la sauce avec Chris. Moi, je sais pas vraiment. J'ai juste dit la légende veut. Après, moi, je veux aussi.
Non, mais
je veux aussi.
On aime croire ça. Et pour ceux qui ont l'habitude, parce que je sais que depuis Vidéostore, des gens sont allés dans le vidéoclub.
Ouais.
Ils ont l'occasion de parler avec Chris. Et à chaque fois, c'est un bon moment parce que Chris est un passionné.
Et d'ailleurs, ils sont sur Instagram, Vidéoclub de la Butte.
Exactement.
Si vous voulez les suivre.
Ils sont au vidéoclub et ça m'arrive souvent de recevoir des photos de gens. Et d'ailleurs, tu dois être nommé aussi dedans, Guillaume, qui se mettent en position derrière le comptoir, un peu en mode Vidéostore et tout. Et ça fait toujours plaisir quand vous faites ça.
Ouais,
dans cet épisode.
Il faut dire aux gens d'aller à ce vidéo.
Ouais, il faut leur dire parce que je crois qu'il en reste deux aujourd'hui.
Absolument.
Ce vidéoclub, enfin, en tout cas à Paris.
Ouais.
Vidéoclub de la Butte. Et puis l'autre vidéoclub, c'est celui que Combini utilise pour.
Le point vidéo. D'accord, ok. Ouais. Vous avez les deux derniers ensemble.
Ouais. Exactement, voilà. On a les deux derniers vidéoclubs. Dans cet épisode, nous allons parler d'un film qui, à titre personnel, est un de mes films préférés, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sorti en 2004, réalisé par Michel Gondry et écrit par Charlie Kaufman, Eternal Sunshine raconte l'histoire d'un couple formé à l'écran par Jim Carrey et Kate Winslet, couple qui ne se supporte plus et qui va voir l'un d'entre eux avoir recours à un système d'effacement de mémoire afin d'oublier l'autre. Ce film a obtenu l'Oscar du meilleur scénario ainsi que le César du meilleur film étranger. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Max.
Et ben donc comme je te disais, je savais que t'allais me poser cette question et je n'arrive pas exactement à situer la première fois que je l'ai vu. Je suis à peu près sûr que c'était en louant à ce vidéoclub justement. Je l'ai pas vu en salle au moment où il est sorti. Je l'ai vu plus tard en salle. On en parlera peut-être.
Tu peux en parler dès maintenant.
Okay, bah alors très
bien. Il y a une très bonne info.
Non, parce que voilà, comme j'avais pas l'anecdote de ma première visionnage, j'ai celle-là en échange. Donc à l'époque où il faisait l'usine des films amateurs, donc qui était un truc qu'il avait mis en place au Centre Pompidou, où tu réalisais ton film en 2 heures avec un groupe d'inconnus que tu connaissais pas, t'écrivais le scénario, il y avait des décors sur place à la Gondry, homemade, et tu faisais plein d'accessoires, de costumes, et tout le monde jouait les personnages, machin. Et tu sortais du truc avec ton DVD, avec le film que t'avais réalisé avec le groupe.
Cool.
Et pour l'ouverture de ce truc, il avait fait une séance de Eternal Sunshine, Donc je l'avais vu en salle à ce moment-là, avec, en première partie, enfin, avant le film, il avait joué avec Laurent Voulzy.
C'est fou ça.
Ce qui est assez absurde. Et il était à la batterie, donc on sait, Gondry est un batteur à l'époque, il jouait avec son groupe Oui Oui. Et donc c'était très absurde, mais très cool. Donc j'avais vu en salle quand même une fois, et c'était super.
Ouais, mais du coup, c'est avec du retard, mais c'est peut-être mieux qu'une première séance.
Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je viens pas les mains vides non plus, quoi.
Guillaume, ton premier souvenir d'Eternal Sunshine?
Bah, ça va être très décevant, du coup. À côté de toi, je crois que je l'avais pas vu en salle, mais je l'avais vu en DVD, chez ma copine de l'époque, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et ben voilà, c'est tout.
T'avais aimé ou quoi?
Pas grand chose. Ouais, bah évidemment. Mais j'avais trouvé ça génial. Mais après, c'est pas un film que j'ai beaucoup revu. Je l'ai revu il y a pas très longtemps.
Ah, moi aussi.
Et c'est marrant, quand je l'ai revu, je me disais, ah ouais, en fait, c'était assez nébuleux dans mon esprit. J'arrivais plus trop à savoir pourquoi, de quoi, etc. Tu sais, c'est une sorte de truc d'enchaînement de. C'est fait exprès, tu vois, mais c'est un peu. Tu sais plus. Enfin, c'est impossible à raconter déjà, quasiment, tu vois.
Ouais,
en gros, il y a un gros pitch de départ, mais après. Et c'est vraiment, quand je l'ai revu, je le découvre à chaque fois que je le revois, je me dis, ah mais oui. C'est pas un film que. C'est un film que j'oublie, en fait, quand je le revois, c'est bizarre.
Très bien.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Bah, ouais, mais
je suis seul dans le délire ou pas?
Non, si, en plus, il y a plein d'arcs que tu découvres après.
Ouais, exactement.
Il y a des histoires un peu parallèles que moi aussi j'ai capté et un peu comprise en le revoyant.
Aurélien, ta première fois. Ouais,
pardon, non, mais j'allais dire, juste pour rajouter, la chronologie du film fait ça, quoi. C'est ouais. Tellement déconstruit dans tous les sens qu'il y a un truc jouissif à le revoir. Ouais. Parce que, et même, bon, même au bout de deux fois, parfois, on comprend toujours pas bien la chronologie et tout. Mmh. Mais quand t'as toute la trame en tête, c'est vraiment jouissif de revoir tous les moments. Mmh. Et il y a plein de petits détails à chaque fois dans les scènes pour t'indiquer.
Exactement, parce que moi, quand je l'avais vu la première fois, la chronologie, forcément, tu la captes pas à 100%.
Non, mmh.
Et après, quand tu le revois et que tu la maîtrises, tu prends vraiment du plaisir à revoir le film, du coup, parce que t'as tout qui est en tête, quoi, tout classé.
Beaucoup de trucs sur les coupes de cheveux.
Ouais.
Ça, c'est fou.
Toi, Aurélien.
Moi, je l'ai vu au ciné et je me souviens que c'était un moment où j'étais un peu genre en mode cinéphile et tout, tu vois. Et j'avais fait tout un lobby pour dire aux gens d'aller voir ce film. Bon, okay. ça servait à rien. J'étais à Orléans et tout, mais je disais ouais, ça, c'est du vrai cinéma et tout. Et alors que je ne connaissais pas, j'y étais allé parce que c'était Jim Carrey et que ça me paraissait un peu fou. Et c'est le premier vraiment moment où j'ai découvert Gondry et que je me suis rendu compte que déjà le mec était français, qu'il y avait tout un truc qui arrivait et j'étais devenu passionné de ça, tu vois. Mais pour remettre dans le contexte, c'est le moment aussi où j'étais passionné de Jeunet et Amélie Poulain. Donc bon, okay. Ça arrive à peu près en même temps. Donc on va dire que ma cinéphilie n'était quand même pas exceptionnelle au moment, mais bon.
On vient de l'apprendre en tout cas.
Voilà.
On savait pas tout ça.
Le film, il est sorti en 2004 et 2004, c'était une période où je commençais à rencontrer des meufs sur Internet. C'était un peu les balbutiements de MSN, de tout ça, etc. Et en fait, à l'époque, j'avais rencontré une meuf sur Internet qui vivait, je sais plus où, vers Bordeaux, je crois. Et en fait, elle venait à Paris pour la première fois. On s'était jamais vu, on se parlait un peu, mais pas trop en mode drague. Et en fait, on s'était dit, pourquoi pas aller voir un film. Et il s'avère que c'était Eternal Sunshine. Du coup, je suis allé le voir avec elle. Elle s'appelle Aliénor. J'ai jamais revu après, en fait. Ce qui est trop bizarre, c'est qu'en fait, on a vu le film. Genre, il y a vraiment cet instant où elle est devant la salle de ciné, on entre. On voit le film, après elle part, tu sais, on n'a même pas le temps vraiment de se parler,
vous avez pas...
Non, même pas, tu vois, et après... mais tu vois, ça s'est bien passé, quoi, mais après, elle est partie, on s'est jamais revus.
Ce qui est fou, c'est qu'on dirait que tu racontes une scène du film.
En fait, ça qui est drôle, c'est que, en gros, j'ai plus vraiment de souvenirs de cette meuf, je sais même pas si elle a vraiment existé, il y a un truc un peu bizarre, ça, comme si ça avait été effacé un peu dans le film, tu vois. Donc il y a un truc un peu marrant.
Bah, Aliénor, si tu nous écoutes.
Bah Aliénor, ouais.
Bah je sais pas ce que tu fais, bah, mais ouais, écoute-nous, quoi.
Je pense qu'ils se sont fait effacer leur mémoire chacun, et en fait, ils avaient un couple ensemble.
Je la hais, en fait. Je la déteste à fond.
Tu t'en rappelles plus.
J'en rappelle plus. Et non, et en fait, le film m'avait marqué. Je me souviens d'un truc qui m'avait marqué précisément. C'était, je sais pas pourquoi, mais c'est le générique qui commence hyper longtemps après le début, en fait.
Ouais.
C'est un truc qui m'avait marqué. Je m'étais dit, waouh, c'est trop bien. C'était comme si je l'avais jamais vu. J'imagine que cette technique a déjà été utilisée dans le cinéma. Mais il y avait un truc où le générique, je crois, de début, il arrive après 15-20 minutes.
Ouais.
Et ouais, ça m'avait marqué. La musique de John Bryan m'avait marqué aussi. Je l'avais trouvé vraiment mélancolique.
La vidéo est incroyable.
Et tu sais, vraiment l'impression de voir un classique instantané. En plus, c'était l'époque où 2004, je sais pas, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Ouais. Tu sais, où t'es un peu mélancolique, etc., machin et tout. Et je sais pas, ça m'avait vraiment marqué
un
ce film.
Émo.
Et un peu émo. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué en particulier, Max, dans ce film?
Ouais, bah, plein, évidemment.
Si tu dois en ressortir une.
Bah. Ça dépend à quel niveau on part. En fait, ça que j'adore avec ce film, c'est qu'il y a tellement de niveaux de lecture à chaque fois. Et je pense que les premiers trucs qui m'ont passionné, en tout cas, dans ce film, c'est la réalisation de Gondry. Et donc, il y a des scènes qui m'ont marqué au niveau comment il met en scène le truc, notamment celle où c'est au cœur du film et il poursuit Kate Winslet. Ils sont dans la rue. Et elle continue de le, elle fait que marcher à l'inverse de lui, quoi. Il la poursuit d'un côté de la rue. Et la caméra panote et elle est de l'autre côté de la rue. Il se retourne pour aller la rechercher. Et la caméra repanote. Elle est de l'autre côté. Ouais. C'est un truc assez subtil. Enfin, comme dans tout le film où de toute façon il se refuse un peu aux effets spéciaux.
Pratiquement tout le film comme ça.
Ouais, c'est ça. Hein. Il y en a peu. Il y en a dans cette scène en soi. Il y a un cut.
D'ailleurs, dans le DVD, détaché, je crois qu'ils expliquent comment ils ont fait cette scène.
Ouais,
et c'est assez impressionnant.
Moi, j'adorais justement au Vidéo Club. Quand on louait les films, j'adorais voir les bonus aussi du film après. Et sur celui-là, c'est délicieux, quoi. Il y a tellement
C'est cool que tu parles de ça parce que récemment, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui était assez intéressante. En fait, c'était un type qui expliquait pourquoi le DVD était mieux que le Blu-ray. Donc, dit comme ça, les gens pourraient dire, bah non, le Blu-ray, c'est mieux. Ouais. Sauf que lui, il expliquait que ce qui était cool avec le DVD, c'était déjà la façon dont étaient construits les menus. C'était hyper imaginatif.
Ouais.
Et surtout, la masse de bonus qu'il y avait dans les DVD qu'on retrouve pas forcément dans les Blu-ray. Il y a beaucoup moins de bonus dans les Blu-ray aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, à l'époque, on n'utilisait pas Internet de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, quand tu avais des bonus, c'était des trucs que tu pouvais pas retrouver forcément sur YouTube ou ailleurs. C'était hyper inédit de voir des bonus en DVD, quoi. Une scène qui t'a marqué, Guillaume?
C'est un peu pareil. C'est toujours en termes de réalisation, mais c'est la scène où elle lui dit, écoute, là, ils vont bientôt arriver, ils vont m'effacer, il faut que tu me transfères dans un souvenir où j'étais pas à la base. Et il se retrouve en enfance. Et il y a cette scène dans la cuisine où il est caché derrière la table, sous la table.
Ouais.
Et elle se transforme en sa babysitter, je crois, ou je sais plus. Et figurez-vous que là, en y repensant, je suis allé, parce que j'ai regardé juste cette scène et je me suis dit, ah, mais c'était quoi le tricks déjà? Et donc, il y a un bonus où Gondry l'explique, la perspective. Ben, j'ai toujours pas compris. Parce que je suis un teubé. Non, mais j'étais là, genre, ouais, c'est archi. Tu sais, j'étais là, ok, d'accord, donc c'est un truc de perspective et tout, je comprends, mais genre, enfin, archi intelligent, quoi.
Moi j'avais compris la première fois que je l'avais.
Ouais, moi aussi, tu vois. Non, mais en vrai, c'est brillant, quoi.
Mais ça, tu
c'est
le vois brillant. Justement dans les bonus. Il est vraiment dans cette salle, cette scène-là où la table est donc en perspective. Donc, selon l'angle de la caméra, tu te rends pas compte, mais en fait, elle est hyper longue monte en l'air. Et donc, la table est penchée. Donc, il s'amuse à mettre une orange ou un truc au bout de la table qui roule. Et lui, il court devant la table et du coup, il grandit dans le plan. Enfin, c'est super cool.
Ouais, c'est trop beau.
Et il y a plein de trucs comme ça dans les bonus.
Ouais, mais ça, en fait, il y a tellement de trucs à dire sur la réelle de Gondry. Et d'ailleurs, Aurélien, tout à l'heure, tu nous parleras en chronique justement du travail de Michel Gondry et de son passé.
Est-ce qu'il est plus intelligent que nous, non?
Je pense.
Aurélien,
une scène qui t'a marqué dans le film?
Eh bien, j'allais dire cette scène justement où Jim Carrey est tout petit là et qu'on comprend plus rien avec cette perspective. En effet, tous les effets spéciaux un peu étranges. C'est cool. Moi, je me rappelle aussi de. C'est quoi? Il y a une tente sur une plage à un moment? Non, il y a pas ça où ils sont sur une plage.
Il y a une fête, une sorte de barbecue sur la plage.
C'est leur première rencontre.
Ça, ça m'avait fait à la fois bad tripper parce que vu que c'est des sortes de souvenirs, à un moment, on n'arrive même plus à savoir où on est. C'est à moitié éclairé, c'est plus ou moins la nuit à chaque fois. Et t'es là genre, waouh.
Ouais. Peut-être dans la maison abandonnée qui. Non, c'est pas ça dont tu parles.
Ça, c'est à la fin.
Ouais. En fait, ouais, il y a une maison abandonnée. Mmh. C'est peut-être ça la tente. Je sais plus, mais il y a une.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
Ouais.
Tu vois, pour te dire à quel point c'est bien foutu, parce que c'est un délire un peu de souvenirs, de rêves et tout. Et même moi, maintenant, j'ai des souvenirs et des rêves du film, mais comme des sensations qui sont pas forcément réelles de ce qu'il y a dans le film.
C'est dans cette scène où, en gros, il se présente, lui, il est en train de bouffer, et elle dit, ah, mais t'es comme moi, t'es entité asociale et tout, ça fait plaisir de voir un mec comme ça.
Ouais.
Elle lui prend dans son assiette, il commence à parler comme si c'était le début de la relation. Finalement, la conversation, elle switch, et elle lui dit. Mais ça va bientôt finir tout ça, tu vois.
Ouais.
Genre, ça va mal se passer.
Elle termine en disant, est-ce qu'on en profite?
Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Et lui, il fait, on a qu'à en profiter, et après, c'est genre. Et en vrai, tu sais, c'est tellement. En fait, il y a ce truc où c'est tellement un film archi spécial, mais qui raconte le couple, quoi.
Ouais,
genre, on peut tous s'identifier à ce truc, tu vois.
Ouais, puis il y a aussi un truc où, à l'époque, quand j'ai vu, je me suis dit, c'est quand même rare de voir un film qui mêle science-fiction, parce que c'est quand même de la science-fiction, et comédie romantique, en fait. C'est assez rare, ce truc.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, je trouvais ça un peu novateur pour l'époque. Moi, il y a une scène qui m'a vraiment marqué. Et parfois, il y a des scènes que je remate sur YouTube juste pour le plaisir. On a tous des scènes comme ça qu'on remate sur YouTube pour le plaisir. Et moi, la scène d'intro, toute la scène d'intro, à partir du moment où il se réveille, qu'une petite voix lui dit d'aller à Montauk et qu'il appelle le boulot pour dire qu'il y va pas, etc. Il y a toute la voix off de Jim Carrey, même où. Il est en train de creuser un petit trou dans le sable et il dit le sable c'est overrated, etc. Machin, c'est juste un petit bout de caillou et tout. Et il y a une scène, il y a un moment qui m'a marqué, c'est quand il se retrouve dans une sorte de café avec Kate Winslet au loin. Elle le regarde un petit peu avec un sourire et lui, il y a une voix off, il dit pourquoi est-ce qu'à chaque fois je tombe amoureux de la moindre fille qui me prête un peu d'attention et tout.
Et là, c'est tous identifié.
Bah voilà,
ça
je me suis identifié à fond à ce moment-là, quoi. Tu vois, et il y a ce truc où tu te dis. Ok, dès le début j'aime le film en fait. Il y a un truc où ça y est, t'es dedans et puis
c'est super
ce film il est vraiment vraiment très très fort quoi. Guillaume,
oui,
Tu es là, Guillaume?
Je suis là, c'est moi.
Parce que j'avais pas encore tourné ma page. Ça, donc j'étais complet.
Guillaume, Guillaume. Virgule.
Je mentionnais il y a quelques minutes l'obtention d'un Oscar pour ce film, celui du meilleur scénario. Mais 18 ans plus tard, je ne comprends toujours pas pourquoi Jim Carrey n'a pas été au moins nommé pour sa prestation. Je trouve ça assez incroyable. Car il joue là un rôle à contre-courant de ce qu'il a toujours fait, même si on avait un peu pu observer les prémices de ses talents dramatiques dans le Truman Show. Et plus globalement, des humoristes qui ont excellé dans un rôle dramatique. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire du cinéma.
En effet, Jean-Baptiste. Et je vous propose un tour d'horizon des acteurs comiques à contre-emploi, en commençant par un acteur qui a aussi joué avec Jim Carrey dans Bruce Tout-Puissant. J'ai nommé
Steve Carell.
Steve Carell, bravo.
Eh ouais.
Comédien ayant débuté par la scène, qu'on avait l'habitude de voir dans des rôles comiques qui ont fait son succès, 40 ans toujours puceau, Anchorman ou The Office, jusqu'en 2014, où il joue dans un film pas drôle du tout, à savoir Foxcatcher, réalisé par Bennett Miller, à qui l'on doit Le Stratège ou encore Truman Capote.
Même Little Miss Sunshine, en vrai, un peu plus tôt.
Ouais, mais ça reste quand même sous le ton de la comédie, parce que je trouve que Foxcatcher...
Ouais, mais il est méga dépressif dedans.
Oui, il est dépressif, mais ça reste un truc feel-good un peu.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire. Alors que là, Foxcatcher, je me suis dit, en vrai... C'est le contre-emploi de fou, et surtout, on l'attendait pas là-dessus. Foxcatcher qui raconte l'histoire vraie donc de John E. Dupont, milliardaire obsédé par la lutte, qui va créer une équipe de lutteurs et un camp d'entraînement chez lui. Résumé sans spoiler pour ne pas vous gâcher le plaisir, mais on navigue ici dans un film relativement malsain avec un Steve Carell métamorphosé, portant une prothèse de nez pour coller au mieux au personnage.
Flippant de ouf.
Prothèse dont il dira qu'elle a été une pièce maîtresse de son interprétation du rôle, puisque dès qu'il était maquillé et qu'il mettait sa prothèse, les gens sur le plateau le traitaient archi différemment et ne le voyaient plus du tout comme Steve Carell. L'équipe technique se tenait à l'écart et il a même limité les interactions avec ses partenaires de jeu, Channing Tatum et Mark Ruffalo. Prestation saluée par la critique et le public qui le verra nommé aux Oscars et au Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur dans un film dramatique.
Et d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé ce film, il y a un super documentaire sur Netflix qui raconte là pour le coup la vraie histoire.
La vraie histoire.
Ouais, c'est assez cool.
Mais c'était un film, moi ça m'avait. Enfin, je l'ai vu, je l'ai vu qu'une fois au ciné, mais ça m'avait grave marqué.
Puis même la lumière, les plans, etc., l'ambiance du film,
c'était très posé dans mon souvenir. Mais c'est très beau. Tournage qui l'enchaînera avec Anchorman 2, et du coup, dans un tout autre registre, et interrogé par le Guardian sur le choc de passer d'un rôle à l'autre, il répondra modestement: vous savez, c'est la même chose, et c'est la même façon de faire, c'est juste deux registres différents. Encore sur le fait de devenir un acteur dramatique et oublier les rôles comiques, il dira: je ne me suis jamais préoccupé du fait d'être pris au sérieux. En fait, il fait ça. Il s'en fout, en fait. Et c'est ça qu'on aime chez Steve Carell. Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Il refera encore un rôle dramatique en 2018 en interprétant le père de Timothée Chalamet dans My Beautiful Boy. Est-ce que vous avez vu ce film?
Non.
Ouais, je l'ai vu.
Très bon film.
J'ai eu la chance de le voir au Forum des Halles, justement en présence de Timothée Chalamet.
Trop bien.
Je me souviens que quand j'avais vu Timothée Chalamet, je m'étais dit, je sais pas, il y avait un truc où tu sens que ce mec, c'est le futur crack. Un peu comme DiCaprio quand il était jeune, quoi, tu vois. Tu sais, il y a un truc où, je sais pas, tu sens que ça va être le méga acteur des 20 prochaines années, quoi.
Mais t'avais pas ressenti ça quand on s'était rencontrés?
Jamais. Ah
ouais. C'est juste pour préciser, quoi. C'est cool. Merci. Bon, ouais, non, mais c'était la conclusion, c'est que, évidemment, bon, on aime tous Steve Carell. Qui n'aime pas Steve Carell? Personne.
Écoute, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire encore plus aimer Steve Carell.
Ah,
il vient parce qu'il a fait un Tabs, on peut préciser ça quand même.
Oui,
Tabs,
oui,
Steve Carell. Ouais, excusez-nous, mais il y a une chaîne aussi.
Non, en fait, il a, dans son petit village local où il est né aux États-Unis, il a repris une vieille épicerie. Et en fait, l'été en vacances, quand il retourne là-bas, eh ben, il travaille dans la petite épicerie, il vend des bonbons aux gens, il fait son petit truc.
Oh, on l'adore.
Ouais, il est sympa, c'est gentil.
Voilà. Franchement, je comprends pas. Je sais pas qui ne peut pas aimer Steve Carell, je comprends pas.
Bah écoute.
Ça m'étonne que ça existe. On enchaîne avec un autre acteur comique ayant réalisé un virage dramatique dans sa carrière. Évidemment, j'ai nommé Robin Williams. Début de carrière à la télévision. Pareil, qui n'aime pas Robin Williams? C'est pas possible.
Ah, c'est dur.
Il y a toujours quelqu'un pour pas aimer.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Dites-nous sur Twitter. Ouais, non, j'aime pas. Début de carrière à la télévision dans la série comique Mork and Mindy, où il marquera les esprits dès les débuts, puisque ses improvisations lui feront gagner le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique.
Ah ouais.
Il est aussi, ouais, c'est fou. Non, mais il a commencé genre, ok, bah, c'est parti, quoi.
C'était un crack direct.
Crack direct. Il est aussi comédien de stand-up. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, on trouve son spectacle de 1983 en entier sur YouTube. Profitez-en.
Si vous voulez en salopette.
Il a une chemise hawaïenne, il me semble.
Ah, c'est ça. Il est bien celui-là.
Ouais. Il débute sa carrière cinématographique, notamment dans Popeye de Robert Altman, et il amorce un virage dramatique dans Good Morning Vietnam en 87, grâce auquel il va remporter son deuxième Golden Globe. Mais c'est en 89 que le premier rôle à contre-emploi du professeur Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus marquera à jamais les esprits. Succès colossal à sa sortie, plus gros succès commercial de l'année en France et nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur dans une comédie dramatique. Tout le monde aime Le Cercle des Poètes Disparus. Je vois pas, c'est l'unanimité qui fait le.
Tellement drôle ce film.
Feel good movie ou pas? Ok. Et dès lors, sa carrière va osciller entre la comédie et les drames, toujours avec brio. Évidemment, on pense à L'Éveil, ensuite à Hook, à La Voix du Génie dans Aladdin, à Madame Doubtfire, à Jumanji, puis à Will Hunting. et j'en passe. Ouais. Bien sûr, on a rarement vu des acteurs capables de tout jouer comme Robin Williams et d'être crédible dans autant de registres. Je voudrais aussi parler d'un film dont on avait déjà parlé ici. Vas-y.
Non, juste pour parler de Will Hunting, j'ai une petite info là-dessus.
Eh oui, c'est ça qu'on aime.
Ça croustille. Ça croustille. Non, mais petite info personnelle. En fait, figurez-vous que depuis septembre, je vois un psy, figurez-vous. Et en fait, il a la même tête que Robin Williams.
Oh,
et du coup, je me dis, cool, franchement, ça me va. Moi qui aime bien le cinéma, etc., je suis dans une petite ambiance Will Hunting.
Ah, je sais ce que tu veux dire.
Et en fait, voilà. Et un jour, je lui dis, qui ressemble à Robin Williams. Il me dit, ouais, on me le dit souvent, etc., machin et tout. Plusieurs séances plus tard, on reparle de Will Hunting, je sais plus quand. Et en fait, il me dit, mais vous savez que j'ai travaillé sur Will Hunting ? Je fais, mais non. Et là, il me fait, regardez dans le générique de fin, il y a mon nom et tout. Et en fait, à l'époque, il vivait aux États-Unis. Il a été consulté par Gus Van Sant parce qu'il est psy et parce qu'il fallait qu'il donne un peu des indices sur la personnalité de Robin Williams dans le film. Et en gros, c'est lui qui a un peu écrit le personnage de Robin Williams.
Incroyable.
Et moi qui comptais arrêter les séances, je vais continuer un petit peu. Parce que mon psy est un crack.
Mais attends,
tu as dit que t'avais la chemise ou pas?
Tu as dit que t'avais la chemise, oui, c'est ça que j'avais dit.
Non, j'ai pas dit non.
Bah...
Non, j'ai pas dit.
C'est une belle, pièce de collection, la chemise de Robin Williams.
Oui, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai acheté aux enchères de Los Angeles la chemise que porte Robin Williams dans Will Hunting. Que je n'ai toujours pas encadré d'ailleurs, par flemme.
Est-ce qu'elle a une odeur? Est-ce qu'elle sent Robin Williams?
Non, parce qu'en fait, elle est tellement restée depuis. En fait, elle vient des usines, enfin, elle vient des locaux de Miramax.
Ah oui.
Et en fait, elle est tellement longtemps restée dans du plastique que ça sent un peu le plastique et tout, mais je ne l'ai toujours pas encadré. Donc, il faut que je le fasse.
Peut-être que Robin Williams sent le plastique.
Oui, je crois que c'est ça, mais en fait, il sent le plastoc.
Plastic Man.
Et donc, pour parler de Robin Williams, je voulais vous parler d'un film dont on avait déjà parlé ici, mais où je l'ai trouvé complètement à contre-emploi et qui m'avait bien marqué. C'était Photo Obsession en 2002.
Ah oui.
Où joue un employé de labo photo assez sombre et solitaire. Pour ne pas spoiler, n'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment pas mal. Côté français, ouais, tout le monde aime Robin Williams, on est d'accord, évidemment, c'est toujours pareil. Côté français, on peut difficilement ne pas parler du film qui est presque devenu une expression quand on parle de passer de la comédie au drame, à savoir...
Ciao Pantin.
Mais ouais, mais vous êtes cinéphile ou quoi?
C'est fou parce que maintenant, il a vraiment fait un truc où dès qu'on parle de ce genre-là, de passer de la comédie au dramatique, c'est Ciao Pantin.
Ouais. Ouais, tu vois. Ouais, il a fait son Ciao Pantin.
Ouais, voilà.
Ciao Pantin avec Coluche, évidemment, film de Claude Berry sorti en 1983, film culte nommé dans 12 catégories au César de 84 et raflant 5 récompenses, dont meilleur acteur pour Coluche. Et pour cause, rôle totalement à contre-emploi, où il joue Lambert, un pompiste solitaire, alcoolique et dépressif. Nouveau visage de Coluche qui, interrogé sur sa prestation dans le film et sur la peur d'endosser un rôle dramatique, déclarera un peu à la Steve Carell, vous savez, Coluche c'était pas moi non plus, c'est un rôle que j'ai joué pendant longtemps, maintenant c'est Lambert, c'est un autre et c'est tout. Mm-hmm. Très modeste Coluche, bravo.
Ouais, il est fort le gars.
Il est fort hein, tu penses?
Colucci.
Ouais.
Ouais,
petite carrière.
J'aime bien.
Même chose avec un autre maître de l'humour à la française, j'ai nommé Bourvil.
Ouais, Bourvilos.
Et Bourvilos. Bourvilos pour les intimes ou pour
Mémo? Dans Melville.
Et, ouais, et qui se voit offrir pour le dernier rôle de sa carrière le personnage du commissaire Mattei dans Le Cercle Rouge, loin des prestations de Candide qu'on lui connaît dans Le Corneau, La Traversée de Paris ou encore La Grande Vadrouille. Et on pourra aussi parler de Jean Dujardin.
Excuse-moi, je vais te couper Guillaume, mais justement dans Le Cercle Rouge, il me semble que c'est un des derniers ou le dernier de...
C'est le dernier.
Et en fait, tournage horrible parce qu'il avait une maladie assez grave, je crois, c'est une sorte de cancer, un truc comme ça. Et en fait, Melville avait dit par la suite qu'il était hyper mal sur le tournage. Et qu'en fait, ils avaient voulu engager des sortes de cascadeurs pour les doublures quand il y a des poursuites dans la forêt, ce genre de truc. Et Bourvil, en fait, a tenu à tout faire et il terminait à genoux à chaque fois en vomissant, etc. Melville était complètement épaté par sa prestation dans le film, quoi. Donc, sublime Bourvil.
Bah, sublime Bourvil. J'ai l'impression que tous les gens qu'on vient de citer, c'est des modèles de modestie et de...
Ouais. Et je crois que c'est le premier film où il est au générique avec son vrai nom et pas Bourvil seulement, je crois, il me semble.
Ah,
si je dis pas une bêtise.
Et aussi, j'avais une anecdote aussi sur Robin Williams.
Est-ce que c'est pas rempli d'anecdotes ce podcast?
Mais c'est incroyable.
Oh, en fait, c'est un Tabs ici ou quoi?
En me repenchant un peu sur Robin Williams, mais peut-être tu l'avais déjà dit dans un Tabs, je sais plus. En gros, il avait un contrat, une clause sur son contrat non négociable, c'est qu'à chaque fois qu'il bossait sur un plateau, il fallait que le plateau engage des SDF pour faire la cantine.
Il y a des photos qui tournent aussi sur Twitter, on le voit avec des SDF comme ça.
Franchement, tous les gars dont j'ai parlé ont la classe. Est-ce que celui-là a la classe? Jean Dujardin? Oui, probablement. Qui a débuté sa carrière dans l'humour sur la scène avec les Nous c'est nous pour les fans d'humour Brice Denis OSS 117. Mais on a moins l'habitude de le voir dans des rôles sombres.
Et il y a un truc sur France 2 aussi qui s'appelait Farce Attack ou un truc comme ça. Je sais pas si t'en souviens de ça.
Mais c'était Farce Attack présenté par Laurent Baffy.
Par Laurent Baffy,
Et c'est un duo avec Bruno Salomon.
Exactement, je regardais ça quand j'étais ado.
Est-ce qu'on est vieux? Peut-être. Oui, et donc dans des rôles sombres comme en 2004 dans Le Convoyeur ou Contre-enquête, un polar sombre sorti en 2006, l'histoire d'un capitaine de police dont la fille a été assassinée. C'est des films qui ont eu quand même moins de succès. J'ai l'impression que le public préfère quand même Jour du Jardin comique. Et on aurait pu aussi citer Cadmérade dans Je vais bien, ne t'en fais pas, figurez-vous, en 2006, bien loin du Camoulox. Et encore, après, c'est une petite liste que je vous fais parce que cette chronique pourrait s'éterniser. Whoopi Goldberg dans La Couleur Pourpre.
Ah ouais, c'est vrai.
Pourpre. Bill Murray dans Lost in Translation. Alors bon, ça, est-ce que c'est un rôle dramatique? Pas vraiment.
Voici quand même.
Et dans Broken Flowers.
Par rapport à ce qu'il
y a dans Broken Flowers.
Là, il est Darkus.
T'as vu qu'il y a des dossiers un peu relous là, sur lui qui sortent, Bill Murray.
Ah non.
C'était vraiment un des gars où je me disais non, j'ai pas envie que des trucs sortent.
Ouais, c'est chiant.
Je te dis,
c'est triste. C'est une triste fin de chronique parce que j'ai pas fini pour le coup. Alors j'ai noté Will Ferrell dans Stranger Than Fiction, mais ça reste quand même. Oui, bah quoi. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va. On est pas content.
Pas le noter.
On est pas content même.
Ça va de moins que d'habitude.
Tu vois. Et après le dernier pour la fin, c'est un des rôles qui nous a le plus marqué récemment, évidemment, Adam Sandler dans Uncle James.
Pour le coup. Et il l'avait aussi fait un peu dans Punch Drunk Love de P.T. Anderson.
Et dans Funny People, en vrai, il était pas très drôle.
Ouais, mais.
Okay. Mais bon, oui,
c'est non, mais si.
Funny People, il y a quand même des vannes.
Il y a quand même des vannes.
Il y a quelques vannes, mais c'est quand même Darkos. Hein.
Ouais, c'est vrai. Écoute, je me suis régalé pendant ta chronique.
Moi aussi, tout hein.
Fait. Magnifique.
Si je peux me permettre de rajouter quand même pour Robin Williams, Insomnia, qui était pas mal.
C'est vrai.
Avec lui, où il joue le méchant du film.
Je croyais que t'allais faire une anecdote, genre, si je peux me permettre, Robin Williams, j'ai.
Ah non, non.
Insomnia, je l'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps parce que c'est un film réalisé par Christopher Nolan et je crois que c'est un. Est-ce que c'est pas son premier? Non, c'est pas son premier film.
Il a fait Following avant,
je crois. Ouais, c'est même après Memento, je crois.
Mais Insomnia, il est assez cool parce que. Bah tiens, raconte-nous le synopsis du film.
Donc, c'est Al Pacino qui vient enquêter.
Anniversaire aujourd'hui. Le 5 avril, c'est l'anniversaire d'Al Pacino.
Big up.
Et qui va donc enquêter dans une ville qui est.
En Alaska,
voilà, ouais. Merci. Et donc, où la nuit dure quoi, 2 heures ou même n'est pas existante.
Non, il n'y a même pas de nuit en fait.
Okay,
il fait jour tout le temps.
Et le mec est insomniaque et donc c'est un espèce de thriller noir, mais en plein jour quoi, pendant tout le film.
Et puis il devient fou parce qu'en fait il n'arrive pas à dormir.
Exact.
Genre il barricade sa chambre d'hôtel de rideaux, de trucs, mais il n'arrive pas à trouver le sommeil. Et en fait, plus il avance dans l'enquête et plus il devient dingue parce qu'il commence à avoir des hallucinations, des trucs machin, il perd un peu le contrôle quoi, tu vois. Et le film est vraiment cool. Et Robin Williams, c'est un peu flippant dedans.
Ah, super
donc,
flippant. Flippant.
Très très bon film, Insomnia.
Et je me permets une dernière fois sur Robin Williams parce que ça c'est vraiment un bijou aussi. L'interview qu'il avait fait pour Inside Actor Studio. Je sais pas si vous voyez cette émission.
Bien sûr.
C'est une des émissions qui m'ont donné envie de faire Tabs.
Ah bah ok.
Je passais sur Paris Première au tout début.
Exactement. J'adorais cette émission.
Ah ça je savais pas.
Pour ceux qui connaissent pas cette émission, en gros c'est un présentateur culte qui reçoit un acteur.
À fond, ouais.
Devant une équipe devant des spectateurs qui sont en école de ciné,
c'est
et
ça.
Ils reviennent sur sa carrière de A à Z, ils racontent des anecdotes sur sa carrière. En vrai, je l'avais déjà dit, mais c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire Tabs, ça m'a un peu inspiré. Et voilà, je te laisse continuer.
Mais celle de Robin Williams, c'est incontrôlable, enfin, elle est incroyable, hyper, hyper drôle et triste en même temps aussi. Enfin, chez lui, il y a toujours les deux, quoi. Et même le mec, je connais pas son nom au présentateur, mais.
Je l'ai oublié,
c'est fou, hein.
Ouais.
Enfin, il est hyper sérieux, hyper. Il est tout fermé, quoi. Hyper. Enfin, j'aime bien. Et Robin Williams, il le tue à chaque phrase. Et le mec ne peut pas avancer dans son interview. Et c'est hyper drôle.
Mais je me souviens que Inside Actor Studio, à chaque fin d'interview, je le respectais de fou, du coup. Il disait on va finir par le questionnaire Bernard Pivot.
Oui, c'est vrai. Non, de Proust, il disait non.
Non, c'était Bernard Pivot.
Je crois qu'il disait Proust.
Il dit pas Bernard Pivot ?
Non, je crois qu'il dit Proust.
Je crois que c'est Bernard Pivot.
Pivot, ce serait dingue. Non, je crois que c'est Proust.
Je crois que c'est Bernard Pivot.
Oh là là !
Faut un compte-check, mais je crois qu'il dit Proust. Hein. Ce serait trop beau qu'il dise Bernard
Pivot.
C'est
pas la même personne ?
Je crois qu'il dit Proust. Mais dans cette émission, Inside Actor Studio, faut savoir que Bradley Cooper était étudiant en ciné. Et vous pouvez trouver les images sur Internet. Il y a Bradley Cooper en tant qu'étudiant, donc pas du tout connu, qui a posé des questions à Sean Penn, Spielberg et un autre, je crois. Et après, j'avais lu un interview de Louis C.K. qui était assez drôle, où il disait c'est quoi ce délire, genre, depuis quand des gars percent dans cette émission? Non, ils percent jamais, les mecs de Inside Studio. Et là, t'as ce gars qui pose des questions et qui après joue avec De Niro après dans un film.
Ouais,
je crois que ça s'appelle Timeless, je crois, un truc comme ça. Et c'est assez incroyable, quoi, voilà. Peut-être qu'il avait posé une question à De Niro. Enfin, bref. Alors, dans Eternal Sunshine, il est question d'amour et d'oubli. Du coup, on va faire un petit truc. Je vais vous poser des questions afin de savoir si votre cerveau a bien gardé en mémoire tout ce qui a composé votre parcours sentimental.
Ok.
Soit vous vous souvenez et vous nous racontez. Soit vous avez véritablement oublié. Soit vous n'avez pas oublié, mais vous n'avez aucune envie de raconter. Ce qui est aussi une possibilité.
Très bien.
Alors, je vais commencer avec les prémices du sexe.
Et voilà.
Et direct, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez été confronté à un film porno, à un magazine, peu importe. Et je commence avec Guillaume pour décoincer l'ambiance.
Bah, ouais, mais évidemment.
Est-ce que tu te souviens de cette première fois, Guillaume?
Je vais vous dire une bonne chose.
Ouais.
Je me souviens de la première fois parce que, en tout cas, c'est un truc, j'ai dû avoir, je crois que j'avais, alors, mes souvenirs où j'ai vu, comment dire, j'avais enregistré, à l'époque, sur M6, passait X-Files, le samedi.
Okay. Ah ouais.
D'accord. Moi, j'enregistrais X-Files. Comme je suis un malin roublard sur une cassette de 4 heures.
Bien sûr.
Que je laissais tourner.
Bien sûr.
Et après, une fois après mon X-Files, je finis mon X-Files tranquille. Et là, ils disent, dans un instant, secret de femme. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon?
Secret de femme.
Et là, je me rappelle très bien parce que c'était un épisode qui s'appelait Mes voisines. Et genre, c'était un mec, elle est, bon, évidemment, voilà, j'étais voisine et tout. Mais c'est des trucs
érotiques.
Mais
t'avais pas enregistré pour ça.
Découvre qu'il y a ça après. Parce que, non, j'avais teuf. Moi, tu sais, genre, j'avais 11 ans, je crois.
Ok, d'accord.
Tu sais, t'as 11 ans.
Mais tu te laisses porter par le.
Je me suis dit, 11 ans, pourquoi pas? Ce qui est fou, c'est que t'as 11 ans. Et t'es genre, tu crois que, je sais pas comment dire, tu sais, t'as jamais fait l'amour du tout, t'es là genre, ah ouais, tout machin, tu sais, genre, ça paraît logique alors que t'as 11 ans, ça a pas de sens, tu vois. Mais par contre, ouais, je me souviens de l'émotion du genre, ah, et genre, ok, la cassette, elle est restée longtemps, genre, j'ai fait, bah, elle est très précieuse, cette cassette. J'ai écrit X-Files.
Est-ce qu'il y a pas Internet?
Et, ouais, il y a pas Internet et t'y reviens souvent. T'as souvent le, tu regardes plus X-Files après.
Moi, je me souviens, j'allais souvent jouer chez un pote qui s'appelle Nassim, on jouait à la GameCube, pas la GameCube, la Nintendo 64 et tout. Et en fait, pour aller dans sa chambre, fallait passer la chambre de son frère qui était juste à côté, donc pour partir.
Mais je connais ces anecdotes.
Et donc voilà, il y a un jour, on joue à Donkey Kong ou je sais pas quoi et tout, et ma mère vient me chercher en bas, et je passe par la chambre de son frère. J'avais jamais été confronté à des scènes porno ou quoi. Et en fait, il y a son frère qui est affalé dans son lit et qui regarde une scène. Pour vous la décrire vite fait, sans être grossier, c'était deux femmes qui pratiquaient une fellation à un gars comme ça et tout. Okay. Et moi, j'ai jamais vu ça en fait. Je connais pas ces images. Et je vois ce truc et je suis. Enfin, tu sais, quand t'as 11 ans et que tu vois ça, c'est ouf quoi. Et je regarde ça et tout. Et mon pote qui fait, oh non, il est chiant quand il fait ça et tout. Et t'as le grand frère qui fait, t'inquiète, plus tard, ça va te plaire tout ça. Et moi, j'étais là, genre, waouh, putain, mais je sais même pas ce que je viens de regarder. Et ça m'avait perturbé pendant tout le trajet avec ma mère et tout. Et puis, c'est la première fois que j'ai été confronté à ça. Mais tu sais, il y avait un côté où t'es là, genre, oh! Et en même temps, tu dis, ah, ok, c'est intéressant ce que je regarde et tout, tu vois, c'était trop bizarre comme situation. Max, est-ce que t'as un premier souvenir?
Ouais, je me rappelle quand j'étais petit et que j'allais chez mon père, mes parents sont séparés, donc il y avait des semaines où j'étais chez mon père, il se réveillait hyper tard. Et donc le matin, je devais m'occuper, donc j'aimais bien aller dans son bureau et fouiner les trucs et tout. Et en fait, mon père est fan des magazines de genre Fluide Glacial.
Je veux dire, magazine porno.
Non, je te rassure, mais il avait plein de BD hyper cul en fait.
Ok.
Et hyper graphique.
T'as quel âge à ce moment-là?
J'ai genre 9-10 ans, quoi.
Ok.
Et ça a toujours traîné là, et donc j'étais persuadé que c'était un gros pervers, quoi. Qu'il avait chez lui des trucs. Tu sais, j'avais aucun recul pour me dire que c'était des magazines de comics, enfin pas de comics, mais de bandes dessinées de l'époque et tout. Et donc, ouais, je pense que c'est ça mes premiers. C'est plus par des dessins, quoi.
Ok, d'accord.
Hyper graphique. Enfin, je sais pas, les Ranks, je sais pas si tu vois de.
Ranks et Ranks.
Voilà. Ouais. Ah. Et il y a des trucs hyper cul dedans. Chaud, et c'est hyper péchu comme dessin et tout.
Mais moi aussi, ça avait été sur papier parce que je me souviens qu'en 5e, un jour, je lève la main pour aller pisser en cours. Je vais pisser. Et qu'est-ce que je vois dans les chiottes par terre? Un magazine de cul. Bon. Mais genre, 18 ans, quoi. Tu vois, un vrai truc porno, quoi.
Je dis, bah attends.
Ouais, au collège. Je sais, bah, je le prends, quoi. Tu vois, et, et je l'ai gardé pendant 4 ans et je le prêtais à des potes. Ah. Comme ça, tu vois.
Après, t'es grave moins concentré sur le contrôle de mal quand tu reviens.
Et toi, Aurélien, alors, premier souvenir?
Eh bien, je pense que c'est entre eux, les deux. Ouais, ouais. Non, moi, c'était des petits animatronics, tu vois. Genre, non, pas du tout. Je pense que c'est un peu comme vous, c'est entre les deux. Moi, j'étais très bande dessinée quand j'étais plus jeune. Donc je pense que c'était pas mal le délire de, tu sais, t'es à la Fnac. Tu sais, t'as toujours ce petit rayon là qui est soi-disant un peu caché, mais qui est pas du tout caché comme, je sais pas, les magazines ou quoi, où on dit non, ça c'est pas pour toi et tout là, c'est un peu juste à côté, tu sais. T'es là, et d'un coup, pouf, t'as le déclic, t'as une meuf nue, tu vois, genre, hé, c'est bizarre ça.
Ouais.
Et donc tu commences à feuilleter pour voir un peu, et je pense que c'est le premier truc. Et après, oui, la cassette vidéo de, il y a un film qui m'intéresse et je la laisse traîner un peu pour voir le petit truc.
Ouais, tu connais la technique.
Bah oui, moi j'avais pas Canal Plus. Donc, souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais le cinéphile. Il y avait souvent Cinéma de quartier, d'ailleurs, de Jean-Pierre Dionnet qui passait sur Canal Plus, et je demandais à des potes qui avaient Canal s'ils pouvaient m'enregistrer la séance du cinéma de quartier. Et comme par hasard, souvent, peu après, il y avait Journal du Hard.
Et, tu vois, c'est ça que les plus jeunes ne savent pas, c'est que nous on avait 6 chaînes, et encore il n'y avait pas 6 chaînes, il n'y avait pas la 4 et il n'y avait pas la 5 toute la journée.
Ah ouais.
Donc on avait 1, 2, 3, 6.
Ouais.
c'est vite fait.
C'était très précieux, la 6.
Et la 6, c'était très précieux. Et il n'y avait ça qui.
Il y avait la musique,
tu vois.
Y avait...
Et c'était la galère.
Est-ce que tu te souviens de ta première pelle, Guillaume? Est-ce que c'est un souvenir encore?
Ma première pelle, ouais.
Ouais, alors c'était comment?
J'étais en 6ème.
Ah, pas mal. Eh, pas mal.
Et c'était cool, grave.
Ouais.
C'était une fille qui s'appelle Ariane.
Oh, joli.
Et elle m'a dit. T'es pas cap. Je fais bah, bien sûr que si. J'ai évidemment embrassé comme un dieu. Pas du tout. Ça devait être vraiment minable, mais écoute, c'est la vie.
Moi, c'était une meuf qui s'appelait Jennifer et c'était dans la chambre de ma sœur, figure-toi, sous un poster des Spice Girls.
Ça va pour toi?
Bah ouais. Tu vois, c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué. Donc je l'ai emballé en mettant Jerry Halliwell en fond et tout. C'était pas mal comme ambiance. Max, t'en souviens ou pas?
Je pense que ça devait être des bouteilles à des booms au primaire. Mais après, c'était legit, un vrai bisou, quoi. Donc je pense que le vrai premier, ça devait être pareil, en sixième. Ou peut-être, ouais, ça devait être ça.
C'est vraiment plus des trucs que tu fais à 38 ans, le Action Vérité. Mais quand t'as 12 ans, c'est très précieux.
C'est vrai, t'attends que ça.
Aurélien?
Eh bien, moi, je pense que ça devait être en cinquième. Je me rappelle que c'était derrière le terrain de basket. Et tu sais, c'était le délire, genre, il y avait un petit couple qui se formait. Et c'était un samedi après-midi. Et tu traînes à 10. Et un truc, genre, allez, vas-y, va derrière le terrain là-bas. Je sais pas, vous embrassez et tout. Et tu sais, toi, tu crois que t'es tout seul. Et au moment où tu t'embrasses, derrière, t'entends, ouais, bravo. Ouais, les gars, c'est dégueulasse, c'est nul. Et voilà, ça s'appelait Cécile. On écoutait beaucoup de métal à l'époque. C'était cool. Okay. Bravo.
La prochaine est pas mal, Guillaume, ça va te plaire. Un souvenir.
Et pourquoi vous commencez par moi à chaque fois?
Parce que c'est le comme les horloges.
Je suis le plus expérimenté. Bon, je vois ce que vous voulez dire.
Un souvenir d'une situation hyper gênante avec une meuf. Est-ce que t'as ça en stock?
Ouais, je dois avoir ça, c'est sûr.
Moi, j'en ai un que j'ai jamais raconté. Et je crois que j'ai déjà raconté, je crois, mais c'est pas mal.
Tu vas raconter les trois coups?
Souvenir comme dans Eternal Sunshine, que j'aimerais effacer de ma mémoire. Ah non, les trois coups, non, ça c'est un autre truc. j'en ai plusieurs.
Bien, celui-là, les trois coups.
Tu veux que je raconte les trois coups?
Non, mais bon. Je crois qu'on a déjà raconté les trois coups en plus.
Non, j'ai jamais raconté les trois coups. même ma copine ne connaît pas l'histoire des trois coups. Personne. Il y a que toi qui connais. Non, il y a un autre pote, je crois. L'histoire des trois coups. Tu veux raconter l'histoire des trois coups?
Est-ce que c'est gênant quand même?
Oui, mais c'est ça le jeu.
Le nom, les trois coups, il est stylé.
Raconte l'autre, que je le connais pas. Je la connais l'autre.
Ouais, je crois. Je crois que tu
est-ce qu'elle est pire?
Vas-y, t'en as une, toi, Guillaume, en stock?
Attends,
ou pas?
Je réfléchis justement.
Ok, je t'en raconte une. Bon, tu veux raconter trois coups?
Ah, j'en ai une pas.
Ah, vas-y, balance.
C'était au tout début de ma vie sexuelle.
Ok.
J'avais une copine à l'époque. C'était pas méga gênant. C'était un peu gênant quand même. On rentre de l'école. Il est 16h. Et en fait, moi, dans ma chambre, il y avait une armoire, et dans l'armoire, il y avait les affaires de toute ma famille. Quoi. C'était une armoire où il y avait plein de trucs, il y avait une trousse à outils et tout, bref. Et je rentre de l'école et on se commence à se dessaper, tu vois. Et on était torse nu, quoi, tranquille avec ma meuf. Mon père, il est rentré sans frapper. Il a ouvert la porte du placard, il a pris sa trousse à outils et il a dit. Du coup, elle était méga choquée, tu vois. Il a dit, ouais, ça va, j'en ai vu d'autres. Puis il a fermé. Et tu veux dire qu'après, tu repars pas dans le délire. Tu fais, bon, bah, on va faire les devoirs, du coup.
Non, ok, je vais raconter l'histoire des trois coups.
Ah oui!
Guillaume adore l'histoire des trois coups.
Elle est belle, l'histoire des trois coups.
Ouais, l'histoire des trois coups est bien. Et donc, à l'époque, je suis avec une première meuf avec qui je couche dans ma vie, qui s'appelle Pauline. Et en fait, elle habitait avec sa mère dans un petit appartement en République. Et elle m'invite pour Shabbat. Et donc, elle me dit, bah, viens et tout, on va manger, blablabla, et tout, machin. Et donc, voilà, et en fait, j'y vais, etc., on mange, et je teste un truc qui était assez épicé. Et puis, une heure après, je me sens pas très bien. Je me sens vraiment pas très bien. L'appartement fait 40 mètres carrés, 35, 40 mètres carrés, c'est assez petit. Les toilettes donnent sur la salle à manger.
Oh, les trois coups. Je l'aime trop.
Et donc voilà. Et là, tu sais, quand tu commences à avoir des petits éclairs dans le ventre.
Ouh, aïe, aïe.
Et tu sais, des petites sueurs.
La suée.
Ouais, la petite suée. Et là, je me dis, bon, putain, faut que je trouve une excuse. Etc. Donc, je sais plus ce que j'arrive à trouver comme excuse. Et je me dis, je vais aller au McDo en bas et puis je vais remonter et puis tranquille, tu vois. Et donc, je vais, le McDo est en travaux. Alors que ça arrive déjà. Très relou. Et là, je cherche un truc, bon, je trouve pas et je remonte, quoi. Et elle me fait, bah, ça va, tu vas bien, tu vas bien, je vais bien, tu sais, je suis en sueur et tout. Et là, je lui dis, attends, je reviens, je vais faire pipi. Pipi, bien sûr. Et donc, je vais aux toilettes et tout, puis là, je lui dis, bon, j'aille. Et un bruit horrible. Mais vraiment, un bruit horrible. Et faut savoir que les murs sont très fins. Et il y avait toute sa famille qui continuait de manger dans la salle à manger, tu vois. Et je les entends parler. Ah, et dès que je lâche la première pression, silence dans le salon. Immense silence. Et là, du coup, je m'arrête en chemin parce que je me dis, c'est pas possible. Là, je vais dans la chambre, je suis pas bien, je suis en sueur et tout, tu vois, c'est terrible. Et elle me fait, ouais, ça va et tout, ouais, ça va. Et donc, après, je suis obligé d'y retourner 5 minutes plus tard. Et là, j'y retourne, et bon, un bruit horrible et tout. Et c'est là qu'arrivent les trois coups.
Les trois coups.
Je suis dans les chiottes. Et là, il y a sa mère qui fait. Ça va, Jean-Baptiste?
Ah, c'est relou.
Ah, c'est relou. Elle fait, vous allez bien, Jean-Baptiste? Je fais, oui, ça va. Et après, je tombe dans la chambre. Et elle a fait le truc qui est relou, c'est que la mère arrive et tout. Et elle me fait, tenez des médicaments pour vous, des smectas. Et là, la meuf fait, bah attends, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était tout, on n'entendait pas. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, je suis allé pisser, c'est tout. Je sais pas pourquoi comme ça.
Aïe.
Et puis voilà l'histoire des trois coups.
C'est une très bonne histoire.
Ouais, c'est terrible.
Donc, j'adore de faire ça. Tout va bien, Jean-Baptiste?
C'était terrible. Enfin bon, voilà. Un des souvenirs que j'aimerais effacer de mémoire. Max, est-ce qu'il y a un souvenir comme ça un peu gênant?
Ah, c'est dur de passer après les trois coups, évidemment.
Les trois coups, c'est chaud.
Non, mais j'ai peut-être des interruptions d'adultes pendant l'acte, quoi. Peut-être ça, j'en avais eu un. Ouais, j'étais chez mon meilleur pote avec ma copine de l'époque. Et alors, c'était pas mes parents, mais c'était les parents de mon meilleur pote qui m'ont surpris dans leur salon. En train de, voilà, avec ma copine de l'époque. Je ne savais pas qu'ils étaient là, évidemment, je tiens à me justifier encore aujourd'hui, et je m'excuse platement. Et ouais, donc j'ai pas eu le regard de mes propres parents sur ça, mais les parents de tes meilleurs potes, c'est pas mal aussi.
Non, c'est mieux quand même, non ?
C'est mieux. C'est
propres parents, c'est relou
c'est
quand
mieux,
même.
C'est mieux, c'est
très
mieux.
Très relou. Vrai. Aurélien ?
J'ai rien de propre qui me vient en tête, donc je préfère rien dire.
Ouais, t'as rien, toi.
Ça rentre plus dans les détails là. Je suis pas certain là.
J'en ai un petit dernier pour vous. Le truc le plus ridicule que vous avez fait pour une meuf, Guillaume. Est-ce que t'as déjà fait un truc méga ridicule?
Méga ridicule que j'aurais fait?
Ou vraiment, tu sais, tu repenses après, tu dis, oh, quel bouffon j'étais.
Qu'est-ce que j'ai fait comme truc de bouffon?
Par exemple, moi, tu vois, un jour, j'ai écrit un poème pour une meuf.
Bien sûr.
Bah oui.
Ah ouais.
T'as déjà fait ça, toi?
Moi, quand j'étais petit. Enfin, en 5e.
Non, mais attends,
quoi.
J'étais grand, j'avais un petit 19 ans quand même.
Ah, mais moi, en 5e, j'avais envoyé des lettres de Saint-Valentin à plein de meufs dans ma classe et tout.
Ah ouais, pas mal.
Plein de meufs carrément.
Non, mais genre, j'ai trotté 3 ou 4, je crois.
Comme ça, s'il y a un qui.
J'ai donné les boîtes aux lettres et tout, machin, cool, tranquille.
Ok. Tu vois,
j'avais pris les adresses dans le carnet de cahier de classe. Allez hop.
C'est bon,
romantique, quoi.
Moi, je faisais ça à fond.
Ça a bien marché. Hein.
C'est un peu un truc qu'on faisait avec Midi quand on était sur les sites de rencontres. Parce qu'à l'époque, on était sur un site qui n'existe plus, je crois, qui s'appelle Fudge World. Et en fait, on faisait des. Ce qu'on appelle des filets. C'est-à-dire que, tu sais, le soir, on laissait plein de messages sur Internet à plein de meufs. Et le matin, qu'on se réveillait, bah, on voyait le filet de pêche.
Oh que ça là là.
Bah, non, bah, c'était un plaisir qu'on avait 19 ans, tu vois. Et là, on disait, bah, on a 5-6 messages qui répondent et tout. C'était un petit plaisir. Bah, un peu comme toi avec tes lettres de Saint-Valentin, quoi.
Mais moi, j'écrivais. Attends, c'était des belles lettres et tout.
Bah, moi aussi, c'était des beaux messages.
Ouais, le. Tu veux voir la capture d'écran quand même.
SLT, ça va.
Aurélien, un truc ridicule que t'as fait pour une meuf, c'est un truc ou pas? Toi, t'es clean.
Moi, j'étais très poème.
Ah ouais, poème aussi.
Allez.
Ouais, quand j'étais au collège, j'écrivais des lettres anonymes. Mais mignonne.
Ah, c'est relou, avec, des lettres de journaux et tout.
Non, pas du tout. Pour le coup, j'écrivais des poèmes et tout. Souvent, j'avais une meuf qui savait pas du tout que j'étais amoureuse. Enfin, amoureux d'elle. Elle ne savait pas, vraiment, on parlait quasiment pas, quoi. Je devais lui parler 3 fois dans la cour de récré, tu vois. Mais j'arrivais à trouver son adresse et je lui écrivais des lettres. Mais genre des trucs, des poèmes et tout, tu vois.
Et
je
signais
le poète maudit.
Oh, le bâtard, ouais. C'est ridicule, putain.
C'est le corbeau.
Oh, c'est ridicule de ouf.
Mais là,
t'as gagné. Ah, putain, le poète maudit, les gars. Le poète maudit, putain.
Avec une vraie signature et tout.
Oh là là,
le poète maudit.
Mais attends, là où ça devient vraiment gênant,
ah ouais.
C'est que
là ça n'était pas là.
Non, ça allait, là, moi j'étais dans mon truc, je kiffais, tu vois, j'écrivais des vrais trucs, des vraies stories. Des fois j'écrivais des fictions et tout. Non, bah, j'étais très très créatif. Sauf que vu que je suis un bouffon, il y a un moment où tu sais, je suis passé à quelqu'un d'autre parce que quand t'es jeune, bon il y a un moment où tu lâches l'affaire, tu vois. Mais ce que j'avais pas fait gaffe, c'est que je postais de mon petit village. Cléry-Saint-André. Combien il y a de gens au collège qui habitent à Cléry-Saint-André? Une personne, moi. Au bout d'un moment, elle est un peu maline. Elle a regardé les timbres poste, tu vois, et elle a vu que c'était posté de Cléry-Saint-André. Et donc, à un moment, je reçois une lettre. Et là, je fais, merde, c'est qui? Et en fait, putain. C'était elle qui me répondait avec une lettre, gros, parfumée, avec des photos.
Ah, ça a marché.
Elle avait kiffé. Elle a fait, il paraît que c'est toi le poète maudit et tout. Et oui, c'est moi le poète maudit. Mais je savais pas quoi faire, mec.
Et finalement, cette histoire n'a pas eu lieu.
Non, parce que c'était en 3e, donc à la fin du collège. Et je ne sais pas pourquoi, pendant un mois, beaucoup de femmes voulaient sortir avec moi.
Alors que c'est le poète maudit. Hein.
Pendant le collège, j'étais éclatax. Il se passait jamais rien. J'avais comme ça des femmes avec qui j'avais envie de sortir et elles savaient même pas que j'existais. Et le mois de juin 1994,
wow.
Beaucoup de femmes. Et pour le coup, elles qui revenaient avec des lettres et tout ça. Et
ah ouais.
Bah non, désolé. Après, il y a eu le lycée. J'étais plus dans le même, du tout dans le même environnement.
Le poète, on s'est jamais reparlé. Le poète maudit a gagné. Je suis désolé.
Mais voilà, Sabine, si tu nous écoutes, elle s'appelait Sabine. J'aimais beaucoup.
Max, t'as un truc comme ça ridicule que t'avais avec une meuf ou pas?
Bah, moi j'étais plus dans la chanson carrément. Hein. J'avais écrit.
Le chanteur me dit,
ouais.
C'est pas mal.
Le chanteur me dit, ouais. On avait un groupe de rock avec mes potes à l'époque et j'avais écrit un morceau. On avait écrit en commun un morceau avec un autre membre du groupe pour deux meufs qu'on kiffait. On avait mixé leurs noms et ça faisait Juicy comme. Je crois que c'était Lucie et Jeanne ou un truc comme ça. Okay. Et on avait fait un morceau qui s'appelait Juicy et qui était vraiment lover immonde.
C'est un bon morceau ou pas?
Non, c'était un très mauvais morceau, bien sûr. Mais on l'avait joué sur scène devant elle et tout. Donc on était allé
au bout du truc, enregistrements de ce morceau.
Non, ils sont tous brûlés, évidemment.
Mais ça marche à fond du coup.
Ouais.
On l'a écrit pour vous et tout. Oh.
Ouais. Après, j'étais sorti avec elle, mais des années plus tard. Donc, je sais pas si ça a joué un rôle ou pas. Ouais. Mais
c'est quoi, elle avait oublié le morceau?
Ouais, c'est ça.
C'est pas eux qui l'ont fait, c'est bon.
Un truc bien ridicule que je faisais, c'est que quand j'avais 16-17 ans, quand je savais que j'allais appeler une meuf au téléphone, je faisais toute une installation derrière où genre je mettais Boys to Men en fond et tout. Oh, et genre après, quand elle m'appelait, elle me faisait « C'est quoi ce petit son d'ailleurs ?» Je faisais « Oh, c'est un petit son que j'ai fait. » Bien ridicule de faire ça. Enfin bref. Si j'avais rajouté un truc là. Par contre, autre question qui n'a rien à voir, mais oui. Première fois que vous avez rencontré une meuf sur Internet, parce que tout à l'heure je parlais d'Internet. Tu te souviens de ta première rencontre d'Internet, Guillaume, ou pas?
Première rencontre d'Internet, ça devait être via Caramel à l'époque.
Putain, moi aussi.
Et c'était une meuf qui je suis pas sorti, mais on écoutait le même son, etc. Elle habitait un peu dans mon quartier, puis après. Et bah après, figurez-vous, on s'envoyait des lettres de vacances.
Ah ouais?
Ouais.
Voilà, genre, maudit,
courriers,
voilà.
Non, mais des courriers, genre tranquille, tu vois. Mais ça s'est pas fait, ouais. Je me souviens plus de son nom, par contre. Mais ouais, c'était ça.
Mais moi aussi, je me souviens pas du nom, mais c'était, je devais être en seconde, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'était sur Caramel. Donc, pour ceux qui connaissent pas Caramel, parce qu'on est
vieux.
Exactement. en fait, à l'époque, il y a pas de photos, quoi. Juste, tu vas dans des forums. Il y a des titres de forums, par
des
exemple.
Des fenêtres de chat avec
ouais, des fenêtres de chat, genre métal, ou même des sujets, tu vois. Genre, je sais pas. T'es allé sur chaque forum. Et en fait, moi, je parlais avec une meuf. Je savais à peu près vite fait son nom, etc. Mais j'avais pas eu de photo, en fait. Donc c'était vraiment un rendez-vous à l'aveugle où tu découvres la meuf. C'est pas comme aujourd'hui, tu découvres la meuf et tu la découvres physiquement et tout.
Surtout quand je repense à Caramel, on était jeunes et tout. Mais c'était nul, en fait.
Non, c'était bien, arrête.
Non, mais c'était trop bien. Moi, j'y passais grave de temps. Mais en fait, c'était juste des gens qui parlaient. Puis parfois, tu disais à un mec, tiens, vas-y, on parle en privé, genre un truc, tu vois.
Mais c'est ça qu'on voulait.
Oui, mais c'est ça qu'on voulait. Mais ce que je veux dire, c'était que on y passait grave de temps. Moi, j'y passais grave de temps. C'était trop.
Mais du coup, j'avais rencontré cette meuf et je me disais, bon, bah, je sais pas à quoi elle ressemble, en fait, tu vois. Et il s'avère qu'elle était hyper jolie, tu vois.
Bravo.
Moi, manifestement, je l'ai passée parce que je l'ai pas revue après. Mais elle était vraiment bien, tu vois. Et je me souviens que j'étais hyper gêné parce que. Et puis il y avait un truc aussi à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est plus tout le cas avec Tinder, etc. Mais à l'époque, il y avait un truc où c'était un peu la honte de faire ça, tu vois.
Ah ouais?
Ouais, tu sais, il y avait un peu un côté genre, oh la honte, il rencontre une meuf dans la fausse vie et tout. Genre, tu sais, il rencontre pas une meuf dans la vraie vie. Je sais pas, il y avait un truc un peu connoté. Alors qu'aujourd'hui, c'est hyper décomplexé
alors
sur Internet.
Alors que moi, sur le Minitel à l'époque.
Oh, putain.
T'as un souvenir? C'était la première meuf que t'as rencontrée sur Internet, Max?
Bah, via pas trop là-dedans, j'avoue. Moi, mes potes, ils étaient grave sur Habbo Hotel, ce qui était un peu un même genre.
C'est quoi, ce truc?
C'était genre des chatrooms pareil, okay. Mais il y avait des persos, mais je crois que c'était un peu l'héritier de Caramel dans le genre, quoi. Mais moi, j'étais pas trop là-dedans, donc je pense qu'en vrai, via Internet, c'est beaucoup plus tard et via Tinder, quoi. C'est pas, pas très original, mais je pense que. Non, j'ai jamais trop été. Parce que sur MSN, je me rappelle de parler à des meufs sur MSN, mais c'était des meufs de mon collège.
Ah bah ouais.
Donc, non, je sais pas si j'ai vraiment fait des rencontres via Internet, à part.
Mais il y a ce truc aujourd'hui, avec la génération actuelle, finalement, tout le monde a déjà rencontré une meuf sur Internet.
Ben,
ou via
après,
appli,
moi, toutes les filles avec qui je suis resté longtemps, c'était ça. Hein.
Ouais, moi aussi.
Genre, une fille avec qui je suis resté 7 ans, je l'ai rencontrée sur MySpace à l'époque.
Putain, moi aussi, MySpace.
Ah, MySpace.
Allons-y. Parce qu'on était là, mais t'écoutes la même musique que moi.
MySpace, c'était cool. Hein.
Ah oui, tu pouvais mettre toute ta page et tout ce qui fait trop.
MySpace, c'était cool parce que pour ceux qui n'ont pas connu, en gros, bah tu te créais ton petit univers comme ça, ouais, comme l'a dit, ouais, ton petit espace.
Dans l'espace.
Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y avait tes films préférés, tes sons préférés, etc. Donc quand les meufs venaient, tu savais qu'elles avaient potentiellement le même goût que toi, quoi.
Mais il y a un truc qu'on oublie et qui était terrible, c'était que MySpace, tu pouvais, t'avais un top d'amis.
Ah bah oui.
Tu m'as mis dans ton top ou pas? Pourquoi je suis deuxième de ton top?
Je me rappelle, ça
c'est cool, c'est bizarre.
Tu mettais un top ami.
Quand ils avaient rajouté un ami en plus dans le top, je fais bah enfin.
On va pouvoir. Et pour les groupes notamment, nous on était sur MySpace en tant que groupe. C'était un gros truc et les tops des groupes. Un peu au-dessus de toi qui te mettait dans leur top, je me rappelle, c'était tout un truc politique. On était dans le top de.
Et je crois que il y a quelques temps, Justin Timberlake avait repris MySpace, mais ça a été un flop, je crois.
Mais ça existe encore.
Ouais, mais ça existe encore, mais qui va sur MySpace aujourd'hui?
Bah, je pense qu'il y a dû y avoir des pays où ils y vont. C'est un peu comme Dailymotion. En fait, Dailymotion, donc plus personne n'y va, mais genre il y a plein de pays où ça fonctionne.
Ouais, il y a du business encore.
Très dur de rameuter sur MySpace aujourd'hui. Hein. Très compliqué.
Bah là, ouais, si tu veux draguer, si tu vas sur MySpace, t'es chaud.
Aurélien. Sur internet.
Bah alors moi en tant que poète maudit forcément internet c'est un truc qui m'a intéressé. J'avais plusieurs alias hein, bon. non, moi c'était les forums en vrai, c'était j'étais grave génération forum parce que donc vraiment j'ai découvert internet dans les années 90. Donc j'ai pas eu tout de suite les trucs de Messenger et tout, il y avait un peu AIM et tout ça, mais en vrai il y avait pas tant de trucs, c'était Yahoo, enfin il y avait plein de. Ça marchait pas très bien et il y avait peu de gens dessus. Par contre, les forums, j'étais un grand gars des forums, notamment les forums un peu hip-hop et tout. Mmh. Et ouais, j'ai eu plusieurs rencontres. Bah après, j'allais à des concerts et tout ça, et j'ai eu plusieurs rencontres, notamment d'une dont je me rappelle bien.
Pas mal.
Début 2000, quoi. Avec qui je suis resté pas mal de temps.
Ouais, comme quoi ça a marché, toutes ces relations.
On était resté en contact.
Bah ouais, ça marche.
Ah, ça permettait de rencontrer quand même des gens qui avaient les mêmes affinités que toi à des endroits très éloignés, tu vois.
Ouais, parce qu'en fait, il y a un truc avec Internet où dans la vraie vie, tu rencontres une meuf, bon, bah, c'est un peu au petit bonheur la chance, etc. Mais Internet avait quand même le temps de bien parler, d'affiner les trucs, etc. Donc, finalement, tu vois.
Ouais, c'est
vrai.
Aurélien. C'est Eternal Sunshine et quelque part une fierté.
Tu peux l'appeler le poète maudit si tu veux.
Ah, le poète maudit, on l'appelle comme ça.
Je refais ça. Le poète maudit, Eternal Sunshine et quelque part une fierté française car son réalisateur est Michel Gondry et ce film lui a permis de se faire connaître mondialement. Pourtant, à cette époque, c'était pas n'importe qui, surtout dans l'univers des clips.
C'est vrai. En effet, Michel Gondry, c'est énormément de. Bah, déjà, c'est une famille assez incroyable. Son grand-père, Constant Martin, est un inventeur. Ça va jouer sur ce qu'il va vouloir faire dans sa carrière. C'est un des mecs qui a inventé un des tout premiers synthétiseurs.
Ok.
Et son père était aussi un bidouilleur de génie, un électronicien, informaticien, pianiste de jazz. Donc il y a cette filiation chez lui, à la fois très musique et à la fois très bidouille, d'inventer des choses et d'être assez en avance technologiquement tout en restant un peu l'analogie, tu vois, de chercher les petites choses quand même avec de la texture. On peut parler de ses frères aussi. Il y a quand même François, son frère, qui faisait partie du groupe Ludwig von 88, un grand groupe.
Ouais, je sais pas.
Et qui est aussi le patron de l'entreprise Goéland. Vous vous souvenez?
Bien sûr, le Goéland.
Qui faisait des t-shirts pour des groupes, mais aussi des t-shirts un peu à message, un peu le fameux qui balance le nazi à la poubelle. Ah, ou les détournements, etc.
Univers sale.
Ouais, voilà, tous ces trucs-là.
En deux mots.
Enfin, c'était des trucs un peu engagés, etc. Qui est donc le papa des rappeurs Bifty et du réalisateur Julius, qui sont donc les neveux de Michel Gondry.
Okay.
Et il a un autre frère, Olivier, qui est lui aussi réalisateur de clips et de pubs, de films de pub, qui lui était membre du groupe Les Négresses Vertes.
Ah ouais, exact.
Et donc tout cet univers-là, un peu des années 80, un peu alternatif, ça a joué dans sa façon de voir sa carrière. Quand il était très jeune, Michel Gondry voulait être inventeur ou peintre, donc un peu artiste, mais en même temps il voulait créer des choses. Et finalement, bah dans ce tourbillon un peu des années 80 de la musique alternative, il va créer lui aussi son groupe dont tu as parlé, Max. C'est les Oui Oui. Qui vont avoir quand même une bonne carrière pop dans les années 80. Notamment, à la fin des années 80, ils vont sortir un album et plusieurs clips qui vont être réalisés par Michel Gondry, qui vont passer sur MTV, dont un qui s'appelle La Ville, qui va être le clip qui va le plus tourner et qui va être repéré par deux personnes. Déjà, en France, Étienne Daho, qui va prendre les Oui Oui en tournée. Ils vont faire la première partie d'Étienne Daho en 1992, avec donc Gondry à la batterie, Michel Gondry, ils sont quatre dans le groupe. Et autre personne qui, elle, va vraiment découvrir
Michel Gondry à travers le clip de La Ville des Oui Oui sur MTV, c'est Björk. Björk, elle va voir ce clip et elle va dire « Ok, je veux ce mec pour réaliser mes clips ». Elle va le contacter et ensemble, pendant quasiment toutes les années 90, ils vont réaliser 8 clips. Et en fait, c'est à partir de Björk et notamment le tout premier morceau qu'ils font ensemble, le premier clip qu'ils font ensemble, « Human Behavior » en 1993, que commence la grosse réputation des années 90 de Michel Gondry. Et c'est là où c'est fort, c'est que c'est très très présent en France. Donc avec bien sûr Étienne Dao qui vont après aboutir à I Am, Je Danse le Mia, réalisé par Michel Gondry, ou bien sûr Daft Punk, Around the World, ou Stardust, Music is Better with You. C'est aussi du Gondry, mais à l'international aussi, c'est un nom qui cartonne via Björk. Donc il va se retrouver à faire des clips pour les Rolling Stones, j'ai noté énormément de clips, on pourrait même dire ceux pour qui il a pas fait des clips plutôt que ceux pour qui il a fait des clips. Il a fait bien sûr aussi pour vous rappelez de Terence Trent D'Arby.
Oui, bien sûr.
Voilà. Il en a fait un clip pour lui, pour Sinead O'Connor, pour les Black Crowes, pour Massive Attack. Le clip Protection de Massive Attack, c'est lui. Donc Daft Punk, Sheryl Crow aussi, les Foo Fighters.
Oh là là.
Aussi Dead White de Beck. C'est lui. Donc là, on parle que des trucs dans les années 80. Il avait fait aussi le remix de Queen avec Wyclef Jean de Another Bite to Dust en 98. C'est aussi lui. Gimme Shelter des Rolling Stones, les Chemical Brothers, Let Forever Be, Radiohead, Knives Out. Donc ouais, vraiment, c'est un énorme.
On en parlait en off, ce fameux clip où, en gros, il est dans un train et on voit en fait la musique, les battements de la musique vont avec ce qu'on voit sur les rails, etc. Et tout, c'est assez impressionnant.
Ouais. Bah en fait c'est ça qui marque aussi les gens, c'est ce côté qui va avoir,
créatif,
qui va y avoir dans son cinéma, c'est d'avoir une idée très forte pour chaque clip et en même temps une idée qui va pas être uniquement basée sur les effets spéciaux, parce que dans les années 90 en fait le grand truc qui commence à arriver c'est le morphing en gros et la plupart des gens l'utilisent pour comme dans le clip de Black or White de Michael Jackson, de faire du morphing entre des têtes de gens ou à la rigueur des gens vivants. Et en fait la grande intuition et le grand génie que va avoir Michel Gondry, c'est qu'il va utiliser les techniques de morphing pour faire comme dans le clip de Je Danse le Mia de I Am, des possibilités de changer les cadres. Et il va le faire vachement souvent et il va le reprendre aussi dans ses films. Et c'est ce côté un peu do it yourself qu'il y a un peu dans sa culture punk avec ses frères et alternatif, où finalement il va utiliser à la fois des techniques simples, des choses un petit peu de bidouille, d'invention, et les techniques, les grandes technologies qui commencent à arriver et qui sont un peu les nouvelles façons de filmer, dans lequel il va rencontrer d'autres mecs et d'autres personnes qui sont dans la même logique que lui, de dynamiter un peu les codes de la vidéo via le clip, parce qu'à cette époque-là, c'est explosif. C'est comme ça qu'il rencontre Spike Jonze, qui lui vient plutôt du skate, qui a fait beaucoup de clips, notamment pour les Beastie Boys. C'est lui qui a fait Sabotage, pas mal de clips sur Ill Communications des Beastie Boys. Et après, il a fait énormément de vidéos de skate, donc il a cette culture-là en lui. Et le grand déclencheur, c'est vers la fin des années 90, quand on leur donne un peu des budgets. On parlait aussi de Photo Obsession. C'est un film de Marc Romanek, qui est aussi un mec qui faisait énormément de clips un peu chelous avec des effets spéciaux. Et à ce moment-là, on leur file, fin 90, début 2000, pas mal de budget pour tester de faire cette façon d'écrire des histoires et de réaliser des histoires en film. Et le premier vraiment qui va réussir, c'est Spike Jonze, avec Charlie Kaufman, qui va être le scénariste de Eternal Sunshine, sur Dans la peau de Malkovich.
Ouais.
Qui va bien cartonner et qui va donc le mettre un peu comme tête de file de cette nouvelle génération de réalisateurs un peu touche-à-tout, un peu bizarre, on sait pas vraiment où va leur réalisation. Donc on peut aussi un peu mettre David Fincher là-dedans, parce que c'est le moment où il commence à vraiment prendre du galon, à faire des gros blockbusters, alors que lui aussi vient du clip. Et il a aussi une patte comme ça où les effets spéciaux sont importants, mais il y a aussi beaucoup de matière, des filtres, etc. Et donc dans ce train-là, Michel Gondry a un premier film qui s'appelle Human Nature, qui sort donc en 2001. Donc on est vraiment dans le même espace-temps que Spike Jonze dans la peau de Malkovich et que Marc Romanek avec Photo Obsession. C'est un film qui est aussi scénarisé par Charlie Kaufman. Donc on sent qu'à ce moment-là, ils sont vraiment en train d'inventer une nouvelle patte, une nouvelle façon de voir les choses. C'est un film qui parle de sexualité, du rapport au corps, C'est un super film en vrai. Manque de bol, c'est un flop total. Les gens n'ont pas compris le truc. Il n'y a pas ce délire qu'il y a eu sur, dans la peau de John Malkovich, où il y a quand même des acteurs méga connus et tout. Mais dans le monde du cinéma, par contre, ça le booste. Et à côté, c'est l'époque où il fait le clip de Kylie Minogue, Come Into My World. Donc incroyable. En fait, c'est le moment où, en niveau dans l'industrie, il est énorme. Il est vraiment très très haut. Et donc, il a la possibilité de faire un deuxième film qui est Eternal Sunshine. Et il arrive à faire ce coup de poker d'avoir Jim Carrey et Kate Winslet. Jim Carrey, quelques années après ses énormes succès, et Kate Winslet, peu de temps après Titanic. Donc c'est le moment où les planètes s'alignent. Et là, c'est son gros succès cinéma qui va après le laisser sur une durée assez cool entre des films français et internationaux. Ce qui est fort, c'est qu'il a toujours réussi à garder ce côté très français et d'être connu en France. Avec des artistes français et donc dans le milieu du clip, dans le milieu de la pub, mais aussi dans le milieu du cinéma, en bossant avec des acteurs français ou des réalisateurs français qu'il adore. Et inversement, à l'international et surtout aux États-Unis, il est hyper réputé comme étant un espèce de mec bizarre qui crée des choses assez étranges entre Quentin Dupieux et chez eux, pas Tim Burton, mais presque, parce qu'il y a une sorte de création d'univers qui est totalement unique, quoi.
Ouais, puis aussi il fait partie de cette trempe de réalisateurs où quand on voit les films, on sait tout de suite que c'est un film de Gondry, quoi.
Exactement. C'est pour ça que je disais Tim Burton, c'est parce qu'il y a ce truc de mélanger du carton, des trucs, on dirait que c'est, je sais pas, de l'artisanat.
Ouais, même le stop motion aussi que Burton et Gondry partagent pas mal, quoi.
Ouais, parce que j'en ai pas parlé, mais dans ses débuts, il a fait pas mal d'animations. Et il a bossé notamment en France sur l'animation de la série Les Triplés et Raon. Où il était chef des, je crois, il faisait la déco, il faisait des trucs, donc il a beaucoup bossé là-dessus. Et dans ses premiers clips, notamment un des clips qui a fait sa réputation, des Oui, Le Village, je crois, c'est du stop motion, déjà un peu en pâte à modeler et tout, avec des personnages.
Les cailloux aussi.
Les cailloux, je pensais, pardon. Et la ville, ils font chier aussi, la ville, les cailloux, vas-y, trouvez des noms un peu sympas, les gars. Et donc, ouais, ce côté un peu bidouille de génie leur approche aussi. Wes Anderson par exemple, avec ce côté un peu contrôle fric de la mise en scène
et vraiment, ce que tu me dis, ça me fait penser qu'il y a une série que j'adore qui s'appelle Flight of the Conchords. En fait, un des épisodes a été réalisé par Michel Gondry exceptionnellement. Et du coup, tu sens la différence avec les autres, parce que c'est vraiment l'épisode le plus créatif au niveau visuel, quoi. Donc c'est partout où il va, en fait, il ramène sa patte et il l'impose. Et pourtant, Eternal Sunshine, c'est un film qui a coûté 20 millions de dollars, je crois, quand même. Et il impose quand même ce truc-là, quoi. Tu vois, de pas céder aux effets spéciaux faciles et de dire, ok, je veux quand même ajouter cette patte-là, quoi.
Ça qui est intéressant, quand même, c'est que on sait que à Hollywood, c'est quand même dur d'arriver à être un auteur. D'ailleurs, il va galérer sur un film ensuite où il y a Seth Rogen qui va le kiffer de ouf et qui va faire Green Hornet, le frelon vert avec lui, sur lequel il dit vraiment que en fait c'était le film de Seth Rogen. Il l'avait écrit, produit. Il jouait dedans, et donc en fait il arrivait tellement tard sur le projet qu'il a jamais pu vraiment mettre sa patte dedans. Et
c'est un des films où tu sens moins la patte de Gondry.
Bah,
il y a une scène quand même qui est incroyable où ça split, se split en mille et tout. Là, ça, tu sens que vraiment c'est une idée de Gondry.
Il a essayé de ramener des idées qu'il aurait pu avoir sur des clips, et il voit, à mon avis, il y avait une certaine partie de la carrière de Gondry que Seth Rogen aimait beaucoup, mais tu sens qu'il peut pas être aussi libre que en France il peut l'être, ou qu'il a pu l'être sur certains des grands films qu'il a pu faire au début de sa carrière internationale.
Très bien, je note.
On peut aussi parler de ses pubs. Il a fait une pub incroyable pour Air France, notamment, qui est vraiment pareil, une idée pure Gondry, où c'est, tu vois les avions dans le ciel. Tu vois cette pub?
Non, je
vois
pas cette pub.
C'est sur un son des Chemical Brothers, justement. Sleep from Day, qui est un incroyable morceau. Et tu vois des avions, t'es au sol, quoi, tu vois les avions qui volent au loin, et c'est que des trucs de perspective où l'avion va passer au moment où un mec nettoie sa fenêtre, ou genre, enfin, le plus connu, c'est que à un moment il y a une meuf qui lève le diamant du vinyle, et avec le plan, l'avion vient se poser comme le diamant sur le vinyle, et le vinyle reprend et tout. Enfin, il y avait que des idées trop super fortes comme ça.
Ouais, il est beaucoup trop fort,
mais c'est tellement unique, en fait. C'est fou, quoi. Personne n'a une carrière comme lui, en vrai.
Bah ouais. Moi, ce qui est fou, je trouve, c'est le lien avec la musique, quand même.
Ouais, à fond.
Et très évolutif. C'est-à-dire que, à mon avis, ce côté alternatif qu'il avait au début, moi qui kiffe le rap de ouf, le fait qu'il se retrouve à un moment on sait pas trop comment, en milieu des années 2000, à se retrouver à faire le film de Dave Chappelle, au moment où Dave Chappelle est au top de sa carrière, et que c'est une sorte d'énorme block party, moitié documentaire, avec pas vraiment de... Enfin, c'est archi bizarre comme truc, dans lequel c'est un témoin d'une époque très importante, dans lequel il y a les Fugees, enfin il y a Lorraine Hill, il y a Mos Def, Talib Kweli, The Roots, Common, c'est vraiment le marqueur d'une époque, Kanye West à l'époque, tout début de sa carrière. C'est fou de te dire que c'est Michel Gondry qui se retrouve là, ouais, à incroyable. Filmer ça, et qui comprend ça en fait. Il le filme d'une façon où genre toute cette énergie, tous ces gens-là ont capté ce que lui il voulait faire.
Mais tu verras plus tard qu'il y a un lien entre Kanye West et Eternal Sunshine.
Ah, figure-toi. Bah, ça m'étonne pas.
Je peux faire une parenthèse ?
Bien sûr.
Parce que j'ai vérifié, c'est bien le questionnaire de Bernard Pivot.
Il dit Pivot.
Il y a même une vidéo écrite Clint Eastwood answering the Bernard Pivot questionnaire.
Hein, quel crack ce Pivot.
Ce qui fait là, c'est que pour le coup, Guillaume, il a pas écouté la chronique.
J'ai vérifié sur Internet. J'ai vérifié tout à l'heure pendant les anecdotes de Poète Maudit, j'ai vérifié.
Et si je peux rajouter un peu sur les idées, une idée, un clip, un peu comme tu disais, il y a même vraiment des. Genre, par exemple, c'est lui qui, je crois, si je dis pas de bêtises, fait le premier clip entièrement où il filme par au-dessus des gens qui forment des.
Ah ouais.
Tu sais, ça forme.
Des lettres et tout.
Ouais, exactement, qui est repris dans plein de pubs plus tard et tout. Ça, c'est lui. Et je crois qu'il y a aussi. Alors, ça, faut vraiment vérifier parce que c'est. Pas sûr, mais je crois que le...
D'après la légende,
le plan mythique de Matrix où tu tournes autour de Neo, machin, et il est comme ça. Ben, je crois que dans un clip, c'était une idée qu'ils avaient chopée du clip de Gondry où il avait mis une tonne d'appareils photo pour faire cette
espèce-là. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait, du
coup. Ça, c'est réel. Le truc, en tout cas, ça a été dit qu'il y a...
Tu avais fait une vidéo Matrix sur Combini il y a pas longtemps, il me semble, non?
Oui, c'est vrai. On en a parlé pas mal de Matrix là pour les derniers, etc. Et c'est vrai qu'il disait que cette idée-là, il y a énormément de trucs qui sont pompés un peu de partout hein, dans Matrix, notamment sur l'animation japonaise, Ghost in the Shell et tout. Il y a des plans faits pareil. Mais en tout cas, la technologie qui est un peu celle qu'on pense être Matrix a été utilisée un petit peu avant, notamment beaucoup par Gondry, parce que c'était du stop motion en fait. C'était genre fait avec énormément d'appareils photo et ça permet de changer l'angle. Et ça, c'est vraiment du travail que Gondry a fait toute la fin
des années 90. Est-ce que c'est lui qui a fait le clip des White Stripes ou tous des doubles?
Ah bah voilà, genre 5 ou 6 clips pour les White Stripes, je crois, et notamment celui-là.
Celui avec les batteries qui descendent, et tu les vois, ça c'est totalement lui.
Ouais. Et
donc c'est après dans les mêmes périodes, et il était vraiment ce genre de technologie-là, qui était en fait de la stop motion.
Il est beaucoup trop fort.
Ouais.
C'est lui qui fait le clip des Lego aussi pour White Stripes, là, en stop motion.
Récemment, il y avait sur Twitter une vidéo qui tournait, qui était assez impressionnante, de Making Of, où, parce que là, il a fait une série qui s'appelle Kidding avec Jim Carrey. Et en gros, c'est une scène avec le temps qui avance. Et en fait, la caméra elle tourne autour du personnage principal. Et quand c'est hors champ, et tu vois toute une équipe qui s'affaire à changer les décors, etc. C'est hyper impressionnant. C'est une forme de chorégraphie vraiment pointilleuse.
Ouais.
Et quand tu vois ça, tu te dis quel talent, quoi.
Il est incroyable.
C'est fou. Max, j'ai une question pour toi.
Ouais.
est-ce que tu préfères le sexe ou les anecdotes croustillantes liées au film Eternal Sunshine? Si t'avais à choisir.
On peut faire les deux.
Les deux en même temps.
C'est vraiment de pire en pire les lancements des anecdotes.
Eh bien écoute, je réponds pour toi, les anecdotes croustillantes, parce que c'est justement le moment des anecdotes croustillantes sur le film. Donc tu vas être ravi. Figurez-vous que certaines scènes du film ont été tournées à Bayonne.
Ah bon?
Ouais.
Ah,
j'ai envie de le dire.
Ah bon? Bayonne dans le New Jersey, je vous ai bien eu. T'es déçu, hein?
Bah oui.
C'est Bayonne dans le New Jersey. Il y a une ville qui s'appelle Bayonne là-bas.
Tu nous as vraiment bien eu, là.
Je vous ai bien eu.
Ah ouais?
Tu vois, ce matin, je trépignais, j'avais hâte de bien vous avoir.
C'est fort. Est-ce qu'ils ont du jambon là-bas?
Bah pas du tout.
Ok.
C'est dans le New Jersey.
Comment ça s'écrit?
Bayonne, comme Bayonne.
Ah, comme Bayonne.
Et leur drapeau, parce que chaque état, enfin chaque ville a un drapeau, c'est le drapeau français avec un logo au milieu. Donc j'imagine que c'est inspiré de la ville de Bayonne.
On dit Bayonne, par contre.
Et Bayonne, oui, exactement. L'idée du film vient de l'artiste plasticien Pierre Bismuth, qui durant une soirée avec Michel Gondry lui a dit « Que dirais-tu si tu recevais une carte t'annonçant que tu as été effacé de la mémoire d'une certaine personne et que tu devrais désormais t'abstenir de tout contact avec elle ?» Donc l'idée de Eternal Sunshine, elle parle de cette soirée, de cette phrase comme ça. Et Pierre Bismuth, même s'il n'a pas écrit le scénario, était présent au moment de recevoir l'Oscar du meilleur scénario parce que finalement, l'idée, elle vient un peu de lui.
Trop bien.
Quel moment il a utilisé, c'est fou quand même. Et si tu reçois une carte, t'as été effacé.
Figurez-vous que Michel Gondry a profité de ce tournage pour réaliser un petit court-métrage avec Jim Carrey et ni plus ni moins que, est-ce que quelqu'un le sait, Eric Ramsey. Exactement. Ce court-métrage est trouvable sur internet mais aussi dans les bonus du DVD. Dans mes souvenirs, c'est un court-métrage où en gros il y a Jim Carrey sur un lit qui imite Elvis Presley, je crois. Et ils vont, il va à une station essence, ouais, ça.
Un lit qui roule quand même.
Un lit qui roule, ouais, ouais. C'est comme une sorte de voiture-lit. Et en fait, il s'arrête à une station essence et les pompistes, ce sont Eric et Ramsey, qui remettent de l'essence dans le lit.
Ouais, exact.
Et t'as Jim Carrey qui redémarre et qui part, etc.
Je me rappelle de ça.
Assez cool d'avoir tourné avec Jim Carrey à l'époque de
Eternal Sunshine. C'est très cool.
Trop bien. La fameuse image qui a souvent représenté le film, celle montrant Jim Carrey et Kate Winslet allongés sur le lac glacé, a failli ne jamais exister. Des mois avant le tournage, il n'était pas du tout certain que le lac serait gelé à cette période de l'année. Gondry avait déjà pensé à une scène de remplacement, mais par chance, l'hiver fut rude en 2003 et la scène put finalement être tournée. Autre info, Eternal Sunshine a failli ne jamais exister à cause du film Memento, figurez-vous.
Ah bah, bravo, encore Nolan, ça.
Après l'avoir vu au cinéma, Charlie Kaufman appela Gondry pour lui dire « C'est mort, je me retire de la course, Memento ressemble trop à notre film ». Du coup, Gondry et Kaufman en parlèrent à leur producteur qui leur répondit « On le fait quand même, on s'en branle ». Voilà.
Il a dit ça vraiment ?
Il a dit ça.
C'était ses mots.
C'était ses mots, précisément.
C'est une citation.
Ouvrez les guillemets, on s'en branle. Dans Eternal Sunshine, il était à la base prévu de placer un clin d'œil à un autre film écrit par Charlie Kaufman, t'en parlais juste avant Aurélien, Being John Malkovich. Les bureaux de Lacuna Inc., donc Lacuna Inc. dans le film, c'est la société qui permet d'effacer les souvenirs. Cette société qui efface la mémoire, donc, devait être placée dans les mêmes bureaux que ceux que l'on aperçoit dans Being John Malkovich. Hélas, le building n'était pas disponible au moment du tournage et ça avait assez chagriné Charlie Kaufman qui souhaitait vraiment un clin d'œil et un lien Being John Malkovich.
Il voulait créer un petit univers.
Exactement.
Le bureau qui était au 7e étage et demi.
Et demi, ouais.
Exactement.
Très bonne idée.
Super
idée.
Dans le premier script, il y avait une petite vibe Titanic, car ça devait commencer dans le futur. La première histoire d'Eternal Sunshine, avec le perso de Kirsten Dunst, vieilli, qui écrit un livre sur l'histoire de Lacuna Inc., donc la société, et donc via la technique du retour en arrière et des flashbacks, elle aurait raconté cette histoire pas ouf.
Du coup, on s'aurait été plus.
Ouais, c'est un peu bizarre,
ouais.
Tu vois.
Ouais, Titanic, pas ouf en plus comme film.
Non, parce que c'est vrai qu'on oublie aussi de le dire, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Jim Carrey, de Kirsten Dunst, mais le casting est quand même assez ouf, parce qu'il y a Mark Ruffalo, t'as Kirsten Dunst, t'as le mec qui joue dans Le Seigneur des Anneaux,
exact.
Qui s'appelle Elijah Wood. Et il y a aussi l'acteur qui joue le boss de Lacuna Inc., qui est très bon aussi, j'ai oublié son nom.
Voilà,
Dans The Patriot aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui joue dans Batman Begins, mais j'ai oublié son nom. Voilà, mais j'ai sa filmo, mais j'ai pas son nom.
Le duo Ruffalo Kirsten Dunst, qui est un peu le deuxième truc là. Il est bien aussi.
Ouais,
on en parle jamais, mais.
Kirsten Dunst, elle est incroyable dans le film. Comme d'habitude, elle est vraiment.
Quand il danse sur le lit, elle en culotte avec Jim Carrey, et tout, c'est cool cette scène. Le premier choix de Gondry, c'était Nicolas Cage et non Jim Carrey. Gondry avait déclaré que c'était un rêve pour n'importe quel réalisateur indépendant de réaliser un premier film avec Nicolas Cage. Il avait en tête comme exemple le film Leaving Las Vegas qui a valu à l'acteur un Oscar. Et en fait, pendant très longtemps, les tractations ont eu lieu avec Nicolas Cage. Finalement, ça s'est pas fait. Et au final, je me dis que Jim Carrey, c'est quand même pas mal. Mais c'était un peu la même chose pour The Wrestler de Darren Aronofsky. À la base, ça devait être Nicolas Cage qui, pour le coup, voulait vraiment jouer ce rôle. Finalement, c'est Mickey Rourke qui l'a joué. Mais c'est vrai que les réalisateurs pensent souvent à Nicolas Cage en rôle un peu dramatique comme ça. Pour
on a aussi raté Nicolas Cage en Superman, hein, visiblement.
Exactement.
Ah ouais, c'est vrai. Ça va l'air stylé.
On a vu des images de l'essai costume
avec les cheveux longs,
qui est exceptionnel.
Mais le costume était assez cool d'ailleurs sur les images. D'ailleurs, c'était réalisé par Tim Burton, possiblement ce film.
Ah, c'est celui-là.
Ah, d'accord.
Okay. C'est le Superman de Tim Burton.
Ouais, Tim Burton, Superman avec Nicolas Cage, assez ouf.
Et en fait, ils voulaient faire DC à l'époque et ils lui ont dit non.
Ah,
parce que vu que le deuxième Batman n'avait pas trop marché et tout,
qu'il
s'était fait virer de la. Bah, ils l'ont pas fait confiance pour un nouveau film de super-héros.
Figurez-vous, les gars.
Entre autres.
Bah alors.
Que sur le tournage. Michel Gondry a encouragé tous les acteurs à proposer des impros. Tous, sauf Jim Carrey, et ça l'a beaucoup frustré. Lui qui a l'habitude de proposer mille choses durant une production, Gondry souhaitait qu'il reste focus dans son rôle, et apparemment il a très mal vécu, il était en mode, parce que lui il aime tellement proposer des trucs comme dans, je sais pas si vous avez déjà vu le film Liar Liar, qui est menteur, c'est vraiment peut-être le film où il a le plus proposé de grimaces et de trucs, et c'est ce qu'il faisait sur tous les films, et là du coup sur celui-là il lui a dit non, reste dans ton rôle. Et le truc qui est assez marrant, c'est que à cette époque, Michel Gondry sortait d'une... une relation compliquée qu'il avait vraiment mis dans l'ambiance du film, et en fait il déprimait exprès Jim Carrey pour vraiment qu'il reste dans son rôle de dépressif et il voulait pas vraiment de comédie, quoi.
En vrai, c'est quand même un des premiers films où il y a pas de grimace, hein, de Jim.
Est-ce qu'il y en a une, c'est vrai ça, est-ce qu'il y a une grimace de Jim Carrey? Je crois pas, hein.
Quand il joue lui-même petit, il en fait quelques-unes. C'est franchement,
oui, c'est vrai,
léger,
exact,
quoi.
C'est pas... quand il se bat avec les petits là, c'est vrai,
là tu sens qu'il est plus dans son
Mais
il est très en retenue.
Et enfin, Aurélien, après avoir vu le film, Kanye West fut tellement séduit par la musique écrite par le compositeur John Bryan qu'il lui proposa par la suite de co-réaliser le morceau Gold Digger. Tu connais Gold Digger ?
Bien sûr.
Bah, c'est John Bryan avec Kanye West.
Incroyable. Voilà. Un sample de...
Ah merde, ouais. Tu t'es lancé, mais.
J'allais dire un pianiste, Steve Wonder, bravo.
Très bien.
Attends, mais c'était super croustillant.
C'était très croustillant.
Très croustillant.
Alors finalement, le sexe ou les infos?
Les infos, voilà,
j'étais convaincu. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Max, première question. Le dernier film que tu as vu au cinéma?
Eh ben, c'est j'ai eu la chance de voir le dernier Azamissus.
Ah, trop bien. Alors, qui a changé de nom?
Qui a changé de nom.
Il devait s'appeler Z
comme Z.
Et finalement, il s'appelle
Coupé.
Coupé. Voilà. Pourquoi il a changé de nom?
Parce que le Z en gros en rouge avec Poutine tout ça, je crois que c'est devenu un peu le nouveau croix gammée en ce moment. Donc, je pense qu'ils sont
relou de sortir un film qui s'appelle Z du coup.
Voilà, on va se retirer. Donc j'ai vu ça, il nous a fait une petite séance privée.
Putain, trop bien.
Très très privilégié là-dessus.
Donc j'imagine que t'as pas envie d'en parler, mais est-ce que toi t'as aimé le film?
Ah, j'ai adoré le film et non, je vais pas en dire trop. Après bon, c'est quand même un remake, donc si vous voulez vous faire une idée du film.
Est-ce que c'est un remake d'un film japonais ça?
Exact, c'est un film étudiant japonais à la base qui a explosé tous les records là-bas et il l'a réadapté, mais je vais rien dévoiler, mais il a rajouté quand même, enfin il a pas juste adapté quoi. Et non, c'est super bien et j'invite vraiment tout le monde à foncer y aller, et il fait l'ouverture de Cannes.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et donc dans ce film, il y a Romain Duris, il y a qui d'autre comme acteur?
Il y a Bérénice Bejo, il y a j'ai pas les termes.
J'imagine que ça sort à la rentrée.
Ça, je crois que ça sort le 11.
Ok.
Donc le jour du début de Cannes.
Ah, ça sort le.
Je crois que ça sort en même temps à Cannes. Et,
très bien. Cool.
C'était très 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 bien.
Le dernier film que t'as vu via une plateforme?
Bah, on a regardé La Nuit Américaine hier sur YouTube. Est-ce que ça compte?
Bah oui, ça compte bien sûr.
Voilà, j'ai regardé ça avec ma copine.
En bonne qualité?
Non, c'était pas ouf et c'était bizarre. Il y avait des coupes. Alors je sais pas, peut-être tu vas pouvoir me dire pourquoi. Mais pendant le film, il y a eu 3 noirs. Et avec un timer qui décomptait genre une minute. Donc je sais pas si c'était pour pas se faire striker ou quoi.
Ouais, je pense.
Je sais pas.
Il y avait de la musique peut-être.
Ah, peut-être.
Pas des moments filmés musique.
Non, mais parce que l'audio continuait. On perdait juste l'image. Donc non, je sais pas.
C'est un bug, je pense.
Ouais.
La dernière série que t'as regardée?
On regarde The Crown en ce moment.
Ah,
et c'est pas mal.
C'est cool.
Est-ce que c'est le passage où... Parce que moi, en fait, ce qui m'a donné envie de regarder cette série, c'est le passage où il y a Gillian Anderson qui joue Divine.
Non, je crois qu'elle joue Thatcher, je crois.
Oui, Thatcher, ouais. Exactement.
Et non, j'y suis pas encore, non.
Moi, j'ai pas vu la série, mais je sais pas, ça m'a donné un peu envie de regarder, justement, de suivre plus la période Lady Di que la période.
En fait,
Elizabeth.
Moi aussi, je me disais ça. Je me disais, limite, je vais commencer saison 3 quand le casting change et tout. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on reprend du début.
Et alors, c'est prenant, du coup?
Ouais, à fond. Surtout, quand tu t'es pas fait spoiler par les cours d'histoire. Je sais pas faire quoi, tu peux te faire spoiler ça, mais on était absolument.
T'es nul à chier en histoire.
Ouais, c'était nul en histoire de l'Angleterre, de la royauté et tout. Et du coup, tous les twists, tu te les prends, quoi. Enfin, alors que c'est des choses que je pense, si t'es de la génération avant, tu le sais, mais moi, j'ai appris plein de trucs et le casting est vraiment super bien.
C'est un truc qu'on s'était dit un jour durant un vidéo store, Guillaume. On s'était dit, mais. Parce que tu sais, il y a cette phrase qui dit, on est tous l'idiot de quelqu'un. Ouais. Mais du coup, c'est qui l'idiot de Elisabeth II? Parce que c'est censé être, tu vois, la suprématie, la royauté, quoi, tu vois. Ou on est tous le beauf de quelqu'un, mais c'est qui le beauf d'Elisabeth II, tu vois?
Non, c'est justement,
qui,
c'est
pour
ça.
Qui elle est, pour qui elle est beauf, tu veux dire?
Ouais, pour qui elle est beauf?
Ouais, pour qui elle est beauf, ouais, j'avoue.
Tu vois.
Alors, on se demandait à quel point aujourd'hui, même les gens l'aimaient et tout, tu vois, parce qu'on va aller à Londres avec ma copine et on se disait.
Ah, vous êtes à fond, là.
Ah, c'était pas lié, en vrai, on va voir, Sister Sledge en concert, c'est pour ça qu'on
y
va.
Ah ouais?
Ouais, elle joue un festival à Brighton, donc on va y aller. Et on se demandait, comment la jeunesse prend la reine là-bas? Enfin, est-ce qu'il la kiffe et tout? Et tous les gens à qui on a posé la question jusqu'ici disent que, à fond, genre, elle est hyper aimée encore et tout.
Je ne sais même pas imaginer le jour de son départ, comment ce sera l'Angleterre.
Ah ouais, et on se disait, c'est peut-être quand on va y aller, quoi. Je me dis, il y a moyen, quoi.
Ce serait historique.
Ouais, j'aimerais bien être là.
Enfin, j'aimerais bien.
attention, mais ce serait un moment fou à vivre.
Mais ce que tu disais, là, ça rejoint, qui dit, Gondry, c'est un beauf, quoi. C'est mon beauf. C'est pas possible, tu vois.
Bah non, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il est suprême, ça veut dire?
Mais non, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se trompe, s'il pense ça.
Bah oui,
c'est
trop
bizarre.
Non, mais c'est comme.
Vu sa carrière, ouais, bon.
Non, mais en off avec Max, on avait une discussion sur les critiques. Et en gros, je disais, c'était assez drôle les critiques cinéma, parce que c'est les seules critiques qui sont attaquées dans la mesure où, par exemple, les critiques musicaux, il y a un truc où, bon, bah, il a aimé l'album, il a pas aimé l'album, tu vois, il y a un truc de goût, etc. Alors que les critiques cinéma, quand ils aiment pas un film, on a tendance à vouloir leur dire, bah, vas-y, bah, réalise un film, bouffon.
Tu vois, c'est vrai. Et... Non, mais c'est pareil pour les critiques littéraires aussi.
Ouais,
c'est
la musique aussi, hein. C'est vrai, il a jamais touché à une guitare. Ouais, il dit ça et...
Ouais, c'est vrai.
Ouais, on fait tous les critiques, en fait.
Ouais. Est-ce que c'est pas...
Mais c'est vrai, les critiques cinéma, c'est plus exposé, quand même.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Après, Gondry, même, pour revenir au côté plouc et tout, après, il a pas fait que des bons films après, je trouve. Ben, j'adore Gondry, hein, vraiment, je suis fanatique et tout, mais genre, il est peinard un peu. Je trouve, ouais, ouais, tu vois, tu fais un chef-d'œuvre. Après, mais... je trouve le reste de sa carrière, elle est. Je trouve pas qu'il essaye de remonter à ce niveau-là, en fait. Ici, il y a une sorte de modestie, genre, c'est bon, j'ai fait mon
truc.
Ouais,
c'est vrai. Mais après, c'est plus, dur, hein,
c'était. Bah, c'était non, je crois que c'était pas sur. C'était sur Combini quand ils allaient au vidéoclub avec Dupieux. Et Dupieux disait ça en passant devant Gondry, quoi. Genre, il est peinard, il a son chef-d'œuvre, quoi. Il a fait son chef-d'œuvre, donc il est tranquille.
Mais je pense que Chris, du Vidéoclub de la Bulle, le prendrait hyper mal si Gondry faisait l'émission de l'autre Vidéoclub, tu vois. C'est un peu comme un joueur de l'OM qui va signer PSG, tu vois.
Ce serait terrible, ça.
Ce serait terrible.
J'avoue. Mais je pense qu'on sous-estime aussi ce côté, comme tu dis, ouais, j'ai fait mon chef-d'œuvre, mais aussi ce côté, bon, bah, tu sais, voilà, je fais le truc qui me plaît, j'ai dit ce que j'avais à dire, tu sais. Les gars, ils sont multi-blindés, tu sais, ils sont là, genre, pfff.
En surtout
vrai.
À quel
moi,
point.
Genre, en vrai, même si tu kiffes ton taf, moi, au bout d'un moment, je serais là. Bon, bah. Bon, bah, tranquille. Ah, moi, je me reposais un peu, quoi. Tu vois.
Peut-être que, tu sais, il met la même intention dans chaque film. Juste sur celle-là, c'était le moment, le timing qui fait que tout le monde a kiffé ça. Et lui, en fait, il dit, bah, je l'ai fait sur le film d'avant, vous en avez un à carré. Je le fais trois films après et vous trouvez ça moins bien. Donc,
ouais, un peu comme les mecs qui font des hits sans faire exprès et qui essayent pas de les chercher, de les forcer après. Il y a un peu ça.
Ouais. Tu vois, vous souvenez du groupe qui avait fait Juicy? C'était un tube sans faire exprès, quoi. C'était un tube.
Ah, c'était un banger.
Après, on n'a jamais entendu parler après.
Est-ce qu'il te reste des poèmes, toi, le poète maudit ce que t'avais écrit, t'en restes ou pas?
Ouais, mais.
Ah ouais? Faut les mettre sous le tweet de cet épisode.
En fait, j'avais un petit carnet et ma spécialité, tu sais, j'étais un peu comme les écrivains publics, là. J'étais dans la cour du collège et j'avais dans ma poche arrière gauche un carnet. France Loisir, avec un petit crayon, et dans ma poche droite, un peigne. Et des fois, si j'aimais bien la personne, je faisais des acrostiches. C'est-à-dire que... Des acrostiches. J'ai appris ce mot à l'époque.
Les acrostiches.
Acrostiches, c'est les poèmes où tu prends les débuts du lettre du prénom d'une personne.
Avec juste un mot, là.
Je faisais le malin en faisant ça, tu vois. Genre, je sais pas, il y avait Camille, que j'aimais beaucoup.
Camille.
T'es vraiment qu'un seul poète maudit à cette table parce qu'on a tous fait
acrostiche, j'aime bien. Mais je ne savais pas ce que c'était avant, c'était juste que ça. Ça enregistre encore plus.
Tu m'en fais un? Tu pourras m'en faire un?
Est-ce que tu veux que je te fasse un acrostiche?
Tu m'en fais un avec Guillaume?
Ouais, Guillaume, c'est long quand même. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, les gars. Max, peut faire.
Ah, moi, tu peux.
Max,
dites-nous sur Twitter si vous voulez les acrostiches de Nemo.
Mentionnez le capitaine Nemo sur Twitter pour qu'il nous montre un extrait des poèmes.
Par contre, mentionnez le capitaine Nemo et qui est le poète maudit, sinon je ne réponds pas.
Le poète maudit. Max, la dernière chanson que tu as écoutée?
Bah là, j'ai vu récemment Dexter Wansel en concert, que je ne connaissais pas. Et du coup, je suis tombé dans Philadelphie et donc là, je suis dans MFSB. Je sais pas si ça vous parle, il y a un morceau de MFSB qui s'appelle Mysteries of the World et je suis accro à ce morceau.
Ah ouais?
Qui est aussi un sample d'Alpha One, j'ai découvert.
Ah ouais, ouais. Il avait samplé dans... Le gros truc, c'était pas Money.
Je sais pas.
Apparemment, non.
Si, c'est ça. Non, je sais pas du tout. Je découvre en ce moment. Donc, j'ai. Je connais. Ah oui, si, c'est ça. Oui, oui, ça, t'as raison. Oui, non, en vrai, ça, oui.
C'est les pochettes.
Exact.
Et le blanc après, il est pas fait. Malé. Il y a un petit blanc de. Non,
je suis navré.
Non, mais j'ai pas l'accent.
En plus, t'étais avec moi. T'étais là avec le FSB et tout.
Oh, le chanteur, j'adore ça, moi. Je suis seul.
Yes.
L'important, les gars, c'est le deuxième. Money! Celui-là, il est important. À la base, ça allait bien.
Le dernier livre que t'as lu, Max?
Alors, je lis très très peu et je suis en train de lire, donc je triche. La Maison des Feuilles, qui est un livre un peu chelou, interactif, où tu dois sais, tu passes d'une page à l'autre bout du bouquin parce que t'es envoyé, ou bien tu dois lire des trucs à l'envers, il y a des sortes d'énigmes dans le truc.
Ah ouais?
En fait, c'est imprimé.
Comme un livre dont vous êtes le héros, un peu.
Un peu, il y a cette idée-là, mais dedans, t'as des énigmes à remplir dans le texte, et même le texte, des fois, se détériore selon l'histoire et tout. Et donc, visuellement, c'est incroyable. Enfin, c'est pas vraiment un bouquin, quoi. C'est presque.
Un jeu.
Presque un jeu, quoi, vraiment, exact. Et c'est incroyable.
Je kiffais les trucs comme ça quand j'étais là, le livre dont vous étiez le héros,
ouais,
voilà,
à
la
page, tout.
Je trouvais ça
très bien. Moi aussi, j'en ai écrit là-dedans.
J'en ai écrit deux, non, c'est vrai, j'en ai écrit deux.
Il nous lâche tout aujourd'hui.
Une carrière incroyable.
Je me dis là.
L'œil du cyclope et l'épée Excalibur.
Incroyable.
Ok, pas mal. La dernière BD que t'as lue.
Bah pareil, malgré que mon père soit fan de BD, j'ai pas du tout.
T'as pas refilé ça?
J'ai pas du tout. Je suis beaucoup jeux vidéo. Okay. Très très jeux vidéo.
Tu joues à quoi en ce moment?
Elden Ring, bien sûr.
Tout le monde joue à ce jeu.
Ah oui.
Mais alors, dur ou pas dur?
Bah dur, oui, dur. Dur, mais bien. Dur, mais bien. Moi, je suis un grand fan de From Software, le studio qui a designé ça.
Ouais.
Et oui, comme tous les jeux, c'est la grande tradition. C'est assez dur, mais c'est magnifique. Donc non, en BD, j'en ai lu qu'une, je crois, dans ma vie, dont je me rappelle vraiment. Et c'était Arkham Asylum, la BD mais hyper dark là. Je sais pas. Alors peut-être il y en a plusieurs. Moi, ça en était une où vraiment le Joker, c'était limite peint. Je sais pas, mais vraiment les images, elles sont super dark. Et voilà, je crois le seul truc avec peut-être Watchmen que j'avais lu.
Bullet Bill, non? Pas du tout?
Non. Ah, Titeuf. J'ai failli te répondre Titeuf tout à l'heure quand tu me disais les premiers trucs, le guide du zizi sexuel. Moi, j'étais pile à l'âge.
Ok, mon premier truc de cul, Titeuf.
Peut-être, j'aurais pu te répondre ça.
Le dernier objet culturel que t'as acheté?
Tu m'avais dit que t'allais me dire ça.
Ça peut être tout.
Ouais, ok. Bah, j'ai offert des vinyles à ma copine récemment, donc ça peut être ça.
C'était quoi les vinyles?
C'était After Hours, Népal et la BO de Red Dead. Elle est fan de Red Dead.
Donc
j'avais fait ça. Et je lui avais offert un mug Central Perk aussi, ça compte ça, non?
Bah oui,
ça compte.
On était récemment à New York avec Guillaume le mois dernier.
Ouais.
Et on est allé dans le NBC Store. Où justement ils vendent plein de trucs de Friends, de Seinfeld, etc.
Yes.
Donc on a acheté des trucs. Et d'ailleurs, quand t'as acheté pour plus de 20 euros, t'avais un mug Friends gratos.
Un mug offert. Je peux dire qu'on en a bien profité.
Oui. On l'a pas laissé passer le mug. Et enfin, le ou la dernière artiste que t'as suivi sur Insta ou Twitter.
Eh ben c'est The Hop. Je sais pas si tu vois.
Non,
c'est
pas.
Un collectif de musiciens qu'on fait un album en 2020. Ou 2021, je sais plus, et confité avec plein d'artistes que j'adore, donc dont Gracie Hopkins, Edge, il y avait Bonnie Banane, des mecs comme ça, et je les connaissais pas, et je les ai identifiés récemment, donc je les ai suivis récemment. The Rap,
cool. Ce podcast est désormais terminé. Max, est-ce que c'est passé vite.
Ouais,
Max, est-ce que tu peux, si vous voulez, on reprend pour une demi-heure, vous voulez.
Allez, c'est parti.
Allez, on fait tous les poèmes du poète maudit.
Offrons-nous un petit plaisir en plus. C'était quoi tes poèmes? T'en rappelles un peu? Ça parlait de quoi?
Mais non, c'était de la merde. Hein, c'était. C'était. Après, des fois, c'était des sortes de rap chelou.
Mais quoi, tu fais des rimes et tout?
Ouais, toujours des rimes.
Toujours des rimes.
Mais par contre, j'avais rien compris au délire des alexandrins et tout. Je m'en foutais. Moi, c'était un peu.
Oui, il est maudit, quoi.
C'était un peu du rap. Tu vois, genre. Et pour le coup, non, mais il y avait ce délire. Je faisais beaucoup d'acrostiches parce que c'était facile, en fait. T'avais quand même le début des trucs.
Malé,
je suis vraiment l'idiot de ce podcast. C'est trop drôle.
J'ai trop envie qu'il fasse un truc avec nos prénoms là, tu sais, Guillaume.
Vas-y, fais-nous des
mais juste un petit mot quoi.
Ah, je suis rouillé les gars, le poète maudit, il est à la retraite depuis 40 ans là.
Non, mais attends, Guillaume, ça commence par la lettre G. Si tu devais le définir, G.
Oh, c'est horrible.
Généreux. Génial et géant.
Génial,
à la fois.
Génial et géant. Tu vois comme il est bon.
Génial et géant à la fois. Oh là là.
Max, lettre M, ça donnerait quoi? Et tout de suite, il est actif, hein, c'est le poète maudit.
Je suis parti. Hein.
Lettre M pour Max. Qui
money,
définit...
money, money,
money. Ouais, ouais,
c'est ça. C'est ça.
J'essaie de le faire mieux, mais j'ai pas réussi.
J, Jean-Baptiste.
Bah, J, c'est chiant.
Bon, bah, merci. Et moi, j'aime pas avoir mon acoustiche.
Juge est parti.
Ah, ça valait le coup, hein.
J'ai envie de faire ça pendant une demi-heure, pour chaque lettre.
Là, c'est de l'impro, les gars, c'est du slam.
Bah oui, bah, je vois ça, oui. C'est donc la fin de cet épisode. Max, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Absolument pas. Jouer à Elden Ring chez moi en slip, bien sûr, tous les jours. Non, en vrai, je peux pas dire. Je suis dans cette situation.
Ok, tu me l'as dit en off, mais tu peux pas le dire en...
Et donc je ne peux pas dire, mais je peux dire que c'est... Il y a un projet animation et un projet télé.
Cool.
Et je peux pas dire.
Très bien. Et donc,
arrête de me demander.
et donc t'écrivais pour Burger Quiz, ça, ouais. Tu peux en parler, c'est fini ou ça continue?
Je ne peux pas en parler, Jean-Baptiste. je ne peux pas parler de Burger Quiz.
Par contre, Elden Ring demain.
Ah, Elden Ring, oui, on peut en parler si vous voulez.
Et non, là, t'en as à quel niveau là? Ça progresse bien, hein? T'es bien dedans?
Oui, tout à fait.
C'est ton actuel Elden Ring.
Je suis bientôt Elden Lord. On y arrive doucement.
Très bien. C'est donc la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Eternal Sunshine. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinema. Merci à Ninon et à Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde.
Merci, au revoir.
Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinema par BNP Paribas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.